Nous sommes mercredi 6 novembre 2019 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Et bonsoir Antix.
Bonsoir.
Ah là là, je suis content de vous retrouver ce soir parce qu'on va parler de Luigi's Mansion, notamment de Luigi's Mansion 3, mais pas que. On va parler des autres Luigi's Mansion, puisqu'on va faire une petite rétrospective, alors qui va être assez rapide, parce qu'en fait, on en avait déjà fait une à l'occasion de la sortie de Luigi's Mansion 2, où on avait reparlé de la version GameCube. Mais maintenant qu'on a un petit peu de recul, il va y avoir un petit peu de redite, mais on va pouvoir dire 2-3 bricoles. On va également parler de l'UFC que choisir, on va avoir notre fil rouge Dragon Quest 11, on va parler du dernier Smash Direct, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais on va faire semblant. Bref, on va parler de tout ça, et on va commencer tout de suite par l'UFC que choisir contre Nintendo.
Fight!
Fight! oui... Tout à fait. Alors ça commence à chauffer un petit peu, donc je rappelle que aux États-Unis, il y a un cabinet d'avocats qui avait lancé une class action, donc une action de groupe contre Nintendo pour les Joy-Con Drift, c'est-à-dire les... Alors les Joy-Con Drift, ce n'est pas une version de Fast and Furious Tokyo Drift, mais avec des Joy-Con, hein. C'est pas tout à fait ça. C'est simplement le fait que les Joy-Con dérivent tout seuls, c'est-à-dire finissent par s'activer tout seuls, sont défectueux, sont... Alors, personne ne connaît la raison exacte, il y en a qui disent que c'est l'usure des petits pads magnétiques qui est à l'intérieur, d'autres qui disent que c'est juste des cochonneries qui se mettent dedans. Bref, on n'a pas d'explication officielle. Mais il se trouve que, voilà, aux États-Unis, un cabinet d'avocats a pris en charge une class action contre Nintendo, qui a donc décidé de réparer gratuitement tout Joy-Con qui lui était envoyé, quelle que soit la date d'achat, la garantie et tout le bazar. Ça, c'est aux États-Unis seulement.
Ouais.
En Europe, on s'est un peu fait baiser. Nintendo a dit, ben, je suis désolé, c'est 1 an de garantie constructeur, 2 ans avec la garantie magasin, et puis après, allez vous faire foutre. Le problème, c'est que, bon, ben, c'est un peu limite, parce que c'est un défaut que rencontrent énormément de personnes. Une paire de Joy-Con, ça coûte 80 euros.
Ouais, à peu près.
À une vache près?
Ouais.
Non, c'est pas. Et 50 euros le Joy-Con seul.
50 euros le Joy-Con seul. Moi, personnellement, j'ai 4 Joy-Con et j'ai déjà remplacé tous les sticks 2 fois.
Sérieux?
Ouais. Ouais. Là, maintenant, j'en suis à 2 tours de stick pour chaque. Sachant que donc, les sticks d'origine ont lâché. Sur tous.
Mais lâché complet ou justement ils avaient
non,
tendance
non, drift.
À activer une...
Okay. Drift, c'est insupportable. C'était pas possible. Donc je les ai remplacés par des copies chinoises pas chères qui ont déconné aussi. Donc ça prouve bien que c'est pas que la faute à Nintendo. Je pense que c'est vraiment un défaut de ces sticks-là qui n'avaient jamais été conçus pour être utilisés intensément. Mais voilà, le fait est, le problème c'est que ceux que j'ai achetés de Nintendo, les tout premiers, ça driftait. Et a priori, de ce que j'ai compris, les nouveaux modèles de Joy-Con qui sont sortis avec la nouvelle Switch, la fameuse révision 01 qui met de la batterie en plus. Alors, il y a une révision, il y a des choses qui ont été changées à l'intérieur du Joy-Con, hein, ils ont... mais ça n'a pas l'air de résoudre le problème.
J'ai une question tout de suite. Autant sur un Joy-Con, je vois, enfin, c'est galère, mais tu peux l'ouvrir et arriver à faire quelque chose.
La Switch Lite.
Exactement.
Et
plus galère.
Bah, en fait, techniquement, tu peux quand même l'ouvrir, tu peux quand même. T'as quand même une carte mère, enfin t'as quand même 2 petites cartes mères sur le côté qui font les Joy-Con, donc techniquement tu peux l'ouvrir et tu peux le changer, maintenant clairement c'est largement plus galère.
Ouais, et puis t'as pas ta console pendant qu'elle est USAV.
Oui, en plus. Enfin, c'est-à-dire que oui, quand t'envoyais un Joy-Con, c'était pas trop grave, parce que tu pouvais les envoyer un par un. C'est un peu pute, mais moi c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai fait remplacer d'abord par Nintendo les sticks.
Ok.
Et ensuite j'ai fini par les remplacer moi-même, parce qu'effectivement pour 10 balles, t'as une paire de sticks neufs pour 10 balles, alors qu'ils tiendront pas longtemps, hein, au bout de 6 mois tu peux les remplacer.
Putain.
Mais c'est... Bon.
Ouais, c'est un truc que j'ai pas encore rencontré. Enfin, je sais, je joue énormément en mode télé avec une manette pro.
Bah moi c'est pareil, du coup les miens fonctionnent encore bien.
Ouais, ton pad pro ou ton Joy-Con?
Non, mais Joy-Con, je pense que le Pad Pro, ça va pas être la même techno à l'intérieur pour les sticks.
Ouais, c'est Nazler qui me pose la question sur le chat. Effectivement, je pense que il est moins miniaturisé, le truc, du coup, il y a moins de bordel qui s'use dedans. Quoi.
C'est ça. Quand tu regardes, en fait... Alors Tardy nous dit aucun stick changé depuis le Day One, oui mais... Alors je sais pas, peut-être que moi c'est les enfants qui les maltraitent, j'en sais rien.
Je sais pas.
C'est peut-être une question d'usage.
J'en ai un que j'ai changé direct, mais c'était le Bluetooth qui déconnait.
Oui, ça c'est le problème de déconnexion du Joy-Con gauche.
Mm-hmm, exactement.
Qui a été résolu par Nintendo et qui d'ailleurs a été résolu dans les batchs d'après. C'est-à-dire tous les Joy-Con qui ont été achetés un ou deux mois après la sortie avaient déjà résolu le problème. Hein. Je veux dire, les mecs ont corrigé assez rapidement. Par contre le drift, enfin moi je suis victime régulière. Je sais sincèrement pas d'où ça vient. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout des gens qui ouvraient le Joy-Con lui-même. Donc, ouvraient le Joy-Con, ouvraient le stick. Et en fait, à l'intérieur, il y a quatre petits pads magnétiques. Et tu as deux petites tiges en métal, en fait, qui frottent sur ces trucs-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi de l'usure là-dessus. Alors, si c'est le cas, c'est foutu. Hein. Je veux dire, si le truc est usé, ça marchera plus. Il y en a qui disent que c'est juste de la poussière qui arrive à se mettre dedans. C'est possible.
Le retour de la malédiction des Switch N64.
C'est un peu ça.
Alors, il y a...
Il y a JBC qui nous dit, voilà, les trois sticks gauche vont bien, par contre, les deux sticks droits ont du mal. Donc, sur 5 Joy-Con, t'en as 3 gauches qui marchent et 2 droits qui marchent pas. Moi, je sais que les droits ont tendance à lâcher moins vite que les gauches. Donc, ce qui prouverait quand même que c'est une question d'usure et d'usage. Parce qu'effectivement, le stick de droite, en général, on le maltraite un petit peu moins que le stick de gauche. Mais bref, c'est quand même très chiant. Et donc, bah, l'UFC que choisir a mis en demeure Nintendo en disant bah, « Vous devriez remplacer gratuitement le truc par des modèles qui marchent. » Ce qui, moi, me paraît normal, parce qu'on n'est pas les seuls à constater ce défaut-là. Et je me dis que sur la Switch Lite, mais si les mecs n'arrivent pas à trouver un correctif très vite, ça va devenir une vraie cata. Quoi. Dans 6 mois, Nintendo va remplacer des dizaines de sticks de Switch Lite.
Oui.
Pas pour grand-chose, quoi. Enfin bon.
Et du coup, bah voilà, j'ai lancé le lien dans le chat, je suis en train de vous le mettre sur Twitter. Que choisir, on fait du coup une espèce de petite enquête en ligne où ils font un appel à témoignage. J'imagine que c'est pour avoir une idée un peu de l'étendue du problème. Je ne peux que vous conseiller de le remplir. Ça ne peut qu'aider.
Même si vous n'avez pas eu de problème particulier, puisque l'enquête de l'UFC que choisir consiste à essayer de savoir les gens qui ont eu des problèmes, les gens qui n'en ont pas eu. Alors c'est très sommaire, hein. il y a une 5 questions, 6 questions, un truc comme ça.
Ouais.
Et puis ils demandent les durées d'usage, ils demandent les moments où on a eu des problèmes, enfin voilà. Donc c'est effectivement complètement informatif, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse mail en bas si vous n'avez pas envie. Voilà, je vous conseille de le faire parce que ça coûte pas grand chose et l'UFC que choisir c'est plutôt des gens bien en général. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, que vous ayez eu des problèmes ou pas, allez le remplir, ça permet eux de collecter des données qui vont peut-être pouvoir servir pour faire quelque chose. Alors, si les États-Unis ont décidé que les Joy-Con devaient être réparés, il n'y a pas de raison qu'en Europe on n'ait pas les Joy-Con réparés. D'abord, et ensuite ça forcera peut-être Nintendo à trouver un fixe définitif, donc à trouver, je sais pas, les sticks de meilleure qualité, de changer légèrement la techno qu'il y a dedans ou je ne sais quoi. Mais il va vraiment falloir qu'ils fassent quelque chose, parce que là, ça devient un peu lourdingue. Bref. Notre deuxième sujet, ce sera notre fil rouge Dragon Quest 11. Voilà, je sais que ça fait plaisir avec ton Antix, ce joueur Antix qui, tac, la voix est revenue. Le micro est là.
Ouais.
Alors, les gars, où est-ce que vous en êtes? Vous avez vécu des aventures formidables, il y a eu un mariage, visiblement.
Alors.
Donc voilà, on attend le résumé depuis le dernier épisode.
Du coup, je te propose de commencer parce que je pense que tu es un peu plus avancé que moi.
Ah bah moi j'ai vu le générique de fin donc oui.
Ok, donc t'es grave plus avancé que moi.
Ah merde quand même.
si je suis allé affronter le boss final. Alors je pense que pour le coup avec Mecton on va un peu spoiler donc...
Ouais on va essayer d'être léger mais...
On va essayer de pas faire ça trop long. En fait ce qu'il faut savoir c'est que à un moment dans le jeu, donc la quête principale du héros c'est d'atteindre l'Yggdrasil, donc l'arbre monde qui se trouve dans le ciel afin de vaincre le seigneur du mal. Et en fait quand on arrive à l'Yggdrasil, et c'est là où le spoil va commencer, y a un twist
c'est pas le méchant en fait.
De quoi?
Le méchant c'est pas le vrai méchant.
Ah si, il y a justement
le méchant, c'est le vrai méchant.
Ouais, c'est enfin, en mode il était caché depuis le début.
Il y a un twist qui fait qu'en fait le héros va se retrouver séparé du reste de son équipe dans un monde qui a un petit peu changé. Alors c'est pas un twist super indie non plus, puisqu'un un certain RPG de 94 publié par la concurrence de l'époque avait fait exactement le même.
Exactement.
Peu de choses près. Et on se retrouve avec une seconde partie qui m'a beaucoup plus plu que la première. Beaucoup mieux rythmé, beaucoup plus centré sur ses personnages aussi,
très chouette ambiance.
Avec un arc de rédemption dans des rivaux qui est assez chouette. Le développement de deux des personnages masculins du groupe qui permet d'en apprendre plus en fait sur deux personnages un petit peu mystérieux qui sont dans ton équipe depuis le début du jeu. Et enfin le dernier truc en tout cas moi qui m'a marqué sur cette partie et qui se déroule un petit peu avant les préparatifs pour le combat final, c'est le sort d'un des personnages en fait qui est laissé en suspens pendant un petit moment et qui est plutôt surprenant en tout cas compte tenu de l'ambiance générale de Dragon Quest.
Ouais, je vois de quoi tu parles et je redoute d'arriver à ce moment.
Voilà, ça j'en dis pas beaucoup plus. Aussi, c'est une partie qui a un scénario inédit des scénarios inédits dans la version Switch.
C'est sympa ça, oui, d'avoir coup, des petites exclus et tout ça.
Ils tombent tellement naturellement dans le déroulé de l'histoire que j'ai été surpris d'apprendre qu'ils étaient nouveaux.
Ouais, ça réutilise des choses déjà existantes dans le jeu. Rien de.
Sauf pour Théo.
Si.
Si, d'accord, ok.
D'accord, tu verras plus tard. Okay. Non, le plus surprenant en vrai, c'est celui de Eric, qui pour le coup est complètement inédit. Et
chouette, putain.
Et celui-là, pour le coup, est complètement inédit, et j'avoue que c'est sans celui-là, sa partie dans le. Enfin, son arc narratif dans la seconde partie est beaucoup plus.
Sorti de nulle part.
Ouais, voilà, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, je sais pas comment c'est géré dans la version PS4. Mais du coup, non, c'est vraiment des bons ajouts. Et même, c'est sympa parce que ça fait un peu des trucs différents. Par exemple, tu vois Sylvando qui se met à recruter des gens sur la carte du monde afin de l'aider à avancer.
Et leur but, je le trouve mignon. C'est un peu débile, niais, mais vu l'ambiance qu'il y a à ce moment-là, ça. Le personnage, ça reste le comic relief du jeu jusqu'à la fin, je pense. Mais arrivé à ce moment-là, tu vois qu'il a, enfin, il a vraiment un bon fond et ça fait plaisir dans cette ambiance bien déprimante qui s'installe. D'ailleurs, c'est cool d'avoir ça.
D'ailleurs, Sylvando, c'est un personnage que moi j'appréciais dans le jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version japonaise, j'ai découvert ça aujourd'hui. Déjà, il s'exprime comme une femme. En tout cas, il utilise des expressions féminines, ou en tout cas qui le caractérisent comme une femme, en tout cas dans le langage japonais. Ce qui n'est pas le cas dans la version française où il s'exprime comme un homme, mais avec un côté très 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 expressif, des petits surnoms affectueux et compagnie.
Et c'est pas lui qui appelle tout le monde mon chou, ou je sais pas quoi. Okay.
Et surtout, en fait, dans la version japonaise, et ça j'ai découvert, il ne peut équiper que des vêtements pour femmes. Alors que dans la version française, on a chez nous, il équipe des vêtements pour hommes.
Oui. Ah oui, donc c'est un travesti dans la version japonaise, c'est officiel quoi.
Alors, ce qui est un petit peu étrange, parce que ces tenues dans la version. Ces tenues normales sont des tenues très masculines. Mais voilà, en fait, il y a une petite différence dans ce personnage entre les deux versions, c'est que dans la version japonaise, c'est un travesti, alors que dans la version française, en fait, c'est plus. On sait pas trop si c'est un homosexuel, mais c'est plutôt un.
Non, je pense qu'il est vraiment en mode. Queer, il s'en fout complètement, voilà, il est juste là, il aime les gens. Et voilà.
C'est un homme très, très expressif sur ses sentiments, très affectueux, et qui est vu d'une façon très, très bienveillante en fait. Il se moque très peu de lui, je trouve, sur ce côté-là, et au contraire, il le présente aussi comme quelqu'un qui a aussi des qualités chevaleresques, quelqu'un qui a un bon fond, qui a un code d'honneur, ce qu'on voit dès le début du jeu d'ailleurs.
Oui.
Et c'est juste pour ça, je tenais à dire que voilà, ce personnage, en tout cas tel que je l'ai vécu dans la version française, est vraiment très bon. À part sur un chapitre un petit peu gênant, j'avoue, avec où il se balade avec un char et ses boys derrière lui. En version japonaise, ils s'expriment vraiment tous comme des ce qu'on appelle un okama, donc un travesti au Japon, le cliché du travesti homosexuel déluré qui est, je dois le dire, moi je le trouve un petit peu gênant.
Le cliché de la grande folle qui est pas forcément un truc.
Voilà, il est vraiment pas agréable.
Ça peut être très malaisant si c'est mal fait, ça peut être très malaisant si c'est bien fait, ça peut être drôle et sans être moqueur, mais c'est pas évident du tout à faire. Après, culturellement, peut-être qu'au Japon, ça passe très bien.
Voilà, je pense qu'en Occident, ça serait pas passé s'il l'avait laissé tel quel. Et honnêtement, je suis assez d'accord, je trouve la version occidentale plus intéressante. Et peut-être même plus proche de problématiques que nous, on aurait en Occident, donc très bon point pour ce perso. Je te l'ai en parlé parce que c'est un truc que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi dans le jeu, que j'avais pu lire en amont, notamment de la Board Game Cult, et non, en vrai, c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié. Du début à la fin, pour ce qu'il est, en fait.
Pour le coup, peut-être que son doublage aide à le rendre plus humain.
Alors, moi,
je pense que si t'as que les textes, du coup, t'as ton interprétation propre, et il y a peut-être moyen de comprendre un truc de travers.
Ouais, je trouve qu'avec les textes, ça passe, honnêtement. J'ai même que les textes... Enfin, moi, j'ai joué avec la version japonaise, donc je comprends un petit peu ce qu'il disait. Je trouve que les textes passaient mieux que le doublage qui est... Qui était parfois vraiment, vraiment cliché et un petit peu gênant, mais voilà. Mais okay, c'était okay. Pour dire, en tout cas, voilà, ce personnage est réussi et en plus, il a un sort de soin de masse.
Ce qui ne gâche rien.
Et le sort qui augmente l'attaque x2, enfin qui fait une très grosse augmentation d'attaque, et ça, c'est vachement bien.
Très bien. Un autre petit truc sur notre fil rouge Dragon Quest 11.
Je sais pas, du coup, tu as atteint la fin, mais c'est pas la vraie fin, c'est ça?
Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une. Après le générique, il y a une. Tout un scénario.
Il y a une scène post-générique de 40 heures.
Ouais, voilà, à peu près. Et apparemment, c'est assez long. De ce que j'ai lu, c'est pas fou. Parce qu'apparemment, ça annule pas mal des effets dramatiques que t'as pu voir dans le jeu. Donc, je sais pas dans quelle mesure. Et je trouve, si c'est vraiment le cas, je trouverais ça un peu dommage. Parce que je trouve que justement, sur ces choix de narration, enfin, sur certains de ces événements.
Les petites histoires qui finissent mal.
Voilà, le jeu savait taper dans les sentiments sans forcer. Et voilà, peut-être que le fait d'annuler, je trouve, si effectivement le but c'est d'annuler ça, c'est un petit peu dommage. Parce que ça assume pas en fait tout ce qui a été fait avant, qui est très très réussi en fait.
Ouais.
C'est un peu dommage quand t'as.
Après, voilà.
C'est sympa d'avoir un scénario bonus, mais si c'est pour que en fait il révèle un peu trop de choses par rapport au scénario d'avant, enfin par rapport au truc d'avant, c'est qu'il casse un peu le mystère, c'est un peu dommage.
Ouais, c'est comme si à la fin de Fire Emblem, on proposait de revenir en arrière pour sauver tous les personnages qui sont morts au combat, tu vois, il y a un côté un peu, bon, bah, on assume, enfin, c'est pas qu'on assume pas, mais ouais, enfin bon, si je le fais un jour, parce que je n'ai pas prévu de le faire tout de suite, je vous dirai ce que j'en pense.
Ce sera donc la fin du fil rouge Dragon Quest 11. Mon dieu, mais comment on va faire? Bon, sujet suivant, la présentation de Terry Bogard qui a donc eu lieu en début d'après-midi, qui était pas vraiment un Smash Direct, un peu compliqué.
Un Sakurai Direct.
Sakurai Direct, où il présentait donc Terry Bogard, le dernier personnage de Smash Bros. Alors, Antix a eu la chance, le privilège et l'honneur de pouvoir le tester, puisqu'en fait, c'est sorti en même temps que la présentation, donc il a pu tâter un petit peu pour voir ce que ça faisait. Qu'est-ce qu'on a appris de beau là-dedans? Alors moi, je n'ai rien suivi sur la question, donc je vous laisse 100% la main sur le sujet.
C'est... Sakurai est un dingue.
C'est une vidéo en trois parties. Sakurai est un nerd.
Oui, et ça, on savait aussi.
Et un gros fan de SNK. Sakurai te présente à quel point Terry Bogard a été modifié pour être exactement identique à ce que lui, il avait le souvenir en arcade. Et c'est assez incroyable. Et enfin, la dernière partie, il te vend les DLC, les DLC Amiibo.
Oui, parce que, alors par contre, j'ai vu qu'il y avait deux nouveaux Amiibo. Il y a Dark Samus et Terry Bogard, du coup.
Alors non, c'est Fel Inferno, mais Terry Bogard arrivera peut-être après. Juste pour faire un petit résumé, la première partie, en fait, il sait que Terry Bogard, c'est un personnage qui est... qui est très vieux, qui est pas connu de tous, notamment des plus jeunes. Bon, j'avoue que moi-même, avant KOF 13, voilà, je le connaissais pas beaucoup. Donc il prend le temps de présenter un peu c'est quoi Fatal Fury, c'est qui Terry Bogard, c'est quoi SNK, il présente même la Neo Geo avec...
Fatal Fury ou King of Fighters?
Alors, Fatal Fury, parce que Terry Bogard est un personnage de Fatal Fury à l'origine, qui, comme à peu près tous les personnages de SNK, a fini dans King of Fighters à un moment ou un autre.
Ok.
Alors moi, je l'ai connu dans KOF 13, donc... L'avant-dernier King of Fighter, très bon jeu de baston d'ailleurs. Et ça c'est plutôt chouette, donc si vous voulez découvrir le perso, je vous conseille de regarder au moins le début, pour savoir qui il est et d'où il vient. Il fait aussi un petit peu de pub pour les différents jeux dispo sur la Switch, puisque je rappelle qu'il y a beaucoup de jeux Neo Geo et que ce sont des jeux Neo Geo.
Tu vas voir qu'ils vont faire un boom dans les ventes la semaine prochaine.
Pas impossible. Ensuite, il présente un petit peu le perso. Alors moi je suis carrément fan, moi déjà j'aime beaucoup Terry Bogard, en termes de design, dans les jeux King of Fighters, en tout cas, de ceux que j'ai pu jouer, c'est un personnage qui est vraiment pas compliqué à jouer, c'est un petit peu le Ryu de SNK. C'est un personnage qui est vraiment inédit dans Smash Bros. Je sais pas si vous vous souvenez, pour Ryu et Ken, il y avait la possibilité de reproduire le Hadoken et le Shoryuken avec les manipulations de l'arcade.
Oui, effectivement. C'était pas obligatoire, mais tu pouvais le faire.
Voilà, et souvent ils étaient un petit peu mieux, parce que tu savais le faire, t'avais le droit à un petit truc en plus. Terry Bogard, en fait, a poussé le concept un petit peu plus loin, notamment pour la fidélité au personnage. Donc déjà, comme Ken et Ryu, tous ces coups spéciaux peuvent être reproduits avec les manipulations d'époque, c'est principalement des quarts de cercle.
Ça déjà c'est sympa.
Enfin, petit truc inédit d'ailleurs sur ce personnage, d'habitude quand tu fais côté avant et B ou arrière et B, c'est exactement la même chose. Et ben là, le coup avant B et le coup arrière B ne sont pas le même. C'est des coups différents, qui ont à peu de choses près le même principe, mais qui sont pas pareils. Donc il y en a un, c'est un coup de poing vers l'avant, alors que l'autre c'est une espèce de round kick qui fait au-dessus de lui. Donc ça c'est le petit truc inédit, et l'autre truc inédit, et qui pour le coup le rapproche énormément de son côté King of Fighters, c'est le côté, que tu peux annuler les coups, en fait. Enfin,
ah, tu peux cancel toutes tes attaques.
En fait, ce qu'il explique, c'est que... tous ces coups normaux peuvent être annulés pour des attaques spéciales, mais il y a une seule unique condition, c'est que tu fasses la manipulation. Donc le quart de cercle, la manipulation du Shoryuken.
D'accord, donc ces coups normaux peuvent être annulés par ces coups spéciaux, mais pas avec les OB, avant B, bas B, comme d'habitude, seulement en faisant les vraies manips d'origine à base de quart de cercle. C'est bien ça? J'ai tout compris?
C'est bien ça.
Ah oui, donc du coup ça fait vraiment un perso original.
Voilà, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir savoir faire les quarts de cercle. Bon, moi, j'ai l'habitude, c'est pas trop un souci. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de combo préétabli, vu que tu peux annuler n'importe quel normal par un spécial. Je pense qu'on est quand même relativement serein. Le seul qui pose peut-être problème, c'est le O et B, qui est en fait un coup à charge. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un coup à charge dans Street Fighter, ça veut dire maintenir le stick dans une direction... Puis l'envoyer dans une autre direction qui est souvent la direction opposée, donc par exemple de bas vers le haut, et appuyer sur une touche. Ce qu'on appelle un coup à charge, ça permet de faire le Sonic Boom de Guile par exemple. Et en fait, le Terry en a un, c'est le O et B, donc qui est le Rising Tackle de mémoire. Et voilà.
D'accord, et du coup c'est sympa à jouer ou pas?
Moi j'ai bien aimé, en tout cas, bon alors... J'ai surtout testé le mode story et les esprits qui étaient fournis avec, qui sont essentiellement des mages d'endurance, donc ça cale plutôt bien. Mais je trouve quand même le personnage a un peu plus de pêche que Ryu et Ken, en termes de coups, alors à voir sur des vrais matchs. Juste dernier petit truc, il a quand il atteint les 100% en combat pourcentage, il a un coup, il peut déclencher, en fait il a des coups cachés, qui sont basés sur ses spéciales de King of Fighters, et qui eux aussi ne peuvent être sortis qu'avec la manipulation spécifique, et elles sont beaucoup plus dures à faire qu'un quart de cercle.
Oui, c'est genre deux quarts de cercle, deux quarts de cercle, maintenir le bouton ou des conneries comme ça.
Pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, c'est le Power Geyser, qui est une espèce de grande vague d'énergie au sol, et le Buster Wolf, qui est quasiment son coup le plus connu, je pense, qui sont voilà, praticables à l'infini, mais par contre, si séparé correctement, bah, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais voilà, c'est un personnage qui est super cool et on voit tout l'amour de Sakurai pour King of Fighters dans ce perso, j'aime beaucoup.
Et ben, ça fait quand même bien plaisir. On va terminer cette première...
50 musiques dans le DLC. Sans barge.
Arrête, tu te fais du mal. On va terminer... Non mais de toute façon, ils sont quand même un peu tarés, hein, Smash Bros. Alors il faut savoir que Smash Bros a battu un petit record la semaine dernière, puisque c'est devenu le... Smash Bros Ultimate est devenu le jeu de combat le plus vendu de tous les temps. Et si les mecs continuent à pomper du contenu comme ça régulièrement, ça risque pas de s'arrêter. Hein. Je pense que là, il va battre des records et ça va être très 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 compliqué de l'arrêter.
Tiens, du coup, on ne sait pas qui est le dernier perso du...
Ah, ça n'a pas été révélé ?
Non.
Non, faudra voir. Alors, rapidement, les restes du monde. Merci Zergy, d'ailleurs, pour les restes du monde. Il nous a fait une magnifique contribution. Donc, je vais passer dessus... relativement rapidement, sauf peut-être sur un, parce qu'il m'intéresse un tout petit peu.
Au sens fait pour où... être rapide. Hein.
Oui, de toute façon, c'est les nuggets, un petit peu, c'est l'apéritif. Donc, visiblement, les bonus donnés en abonnement, l'abonnement, le fameux abonnement à 100 balles par an pour Fallout 76 ne fonctionne pas. J'ai notamment entendu des témoignages de joueurs. Alors, apparemment, il y avait des serveurs dits privés. Donc, les mecs s'attendaient à avoir une carte privée. Et en fait, quand ils sont arrivés sur la carte, il y avait déjà des connards qui avaient tout looté. Voilà, ça marche quand même drôlement bien. Fallout 76, ça devient un petit peu le running gag, là je pense qu'il est temps d'arrêter.
Il n'y a plus d'ambulance, on ne peut plus tirer dessus.
C'est ça.
On est non, là puis pour de toute façon, maintenant, chaud, si tu veux du Fallout, il y a Outer World.
Oui, effectivement, c'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est dans la veine de Fallout, si je dis pas de bêtises, mais qui marche. Et qui serait moins buggé. Et qui serait pas fait par Bethesda, attendez. Retro Studio embauche un ancien de 343 Industries. 343 Industries, c'est les mecs qui avaient fait les Halo après Bungie. Donc c'est à partir de Halo Reach, si je dis pas de conneries. Faut que je vérifie ça.
Ouais, je crois que c'est ça. Puisque Bungie, ils ont fait les trois premiers.
C'est exactement ça. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura un Metroid Prime 4 qui sera plus orienté action.
Pourquoi pas Metroid, c'est surtout aux US et en Europe que ça marche, hein. Les Japonais s'en foutent un peu.
Oui, mais
c'est peut-être pas
une belle référence du Metroidvania, quoi. Après, pourquoi pas, la dernière fois qu'ils ont essayé de faire de l'action, ça a donné aux heures, même.
Oh merde.
Ah bah écoute, c'est Zergy qui tape bas d'habitude. Le dernier boss keys de monsieur. Merde. Game Maker's Toolkit, je me souviens plus de son nom.
James Wan, je crois.
C'est ça, je crois. Bref, ce qui a fait un épisode très long sur le monde de Hollow Knight et comment fonctionnent toutes les mécaniques derrière, je vous conseille de le regarder si vous avez fini le jeu, sinon ça spoil beaucoup.
Ouais, mais très très bon épisode, honnêtement.
Oui, vraiment, vraiment très sympa.
Yes.
Et alors, de toute façon, sur un jeu comme Hollow Knight, Mark Brown, merci monsieur Targi qui nous corrige en direct. Donc voilà, très 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 bon épisode. Et on va terminer par un petit truc rigolo. Alors, le GameCube ODE, il s'agit d'un mode pour GameCube qui permet de remplacer le lecteur de disque par un lecteur de carte SD. Il y a eu exactement le même mode qui a été créé pour Dreamcast il y a 2 ou 3 ans, qui coûte pas très très cher d'ailleurs, et qui permet donc de remplacer l'ensemble du bloc optique par un lecteur de carte SD. Alors, les blocs optiques GameCube jusqu'à présent, j'en ai vu beaucoup fonctionner, même sur des consoles qui étaient dans un état absolument lamentable, donc je pense que il y a encore quelques années... peut-être même quelques dizaines d'années avant qu'il lâche, mais c'est une bonne nouvelle pour la conservation de ce genre de machine, parce que les lecteurs optiques, malheureusement, ben, c'est très fragile. Et donc ça
coucou
finit
la
toujours...
PS2.
Voilà. Mais coucou la Dreamcast, hein. Il y a plus beaucoup de lecteurs de GD-ROM qui fonctionnent. Bon, ça fait partie, heureusement, qu'il y a des communautés de passionnés qui essayent de trouver des solutions pour modifier ça. Alors je ne sais pas combien ça coûte, Zergy, je sais pas si tu as plus de détails que ça, je sais que le truc vient de sortir...
Non, justement, je pas trouvé grand chose. Hein. À part dire, ça vient de sortir il y a quoi, quelques jours.
D'accord.
Pas grand chose, on verra.
Faudrait
ça m'intéresse parce que j'ai une GameCube avec le lecteur de VHS qui traîne chez moi, donc plutôt que de la jeter.
Oui, complètement. Je suis assez d'accord. Alors après, sur GameCube, c'est quand même un petit peu particulier parce que on peut lancer des jeux directement à partir d'une carte mémoire et directement à partir d'une carte SD. Alors d'ailleurs, sur le dojo, vous avez un très bon article sur comment lancer des outils comme Swiss sur sa GameCube qui permet d'aller lancer finalement n'importe quel programme depuis n'importe où. Donc c'est vrai que techniquement, tu peux te fabriquer toi-même ton lecteur de carte SD pour GameCube en dépouillant une ancienne carte mémoire et en la transformant en lecteur de carte SD. C'est pas compliqué du tout à faire, hein. C'est quelques soudures, un peu de fil, un petit peu de savoir-faire. Swiss, c'est très facile à démarrer, il y a quelques jeux qui permettent de démarrer Swiss à partir d'un Game Save Exploit, donc d'un exploit qui utilise une sauvegarde de jeu, notamment des jeux Ubisoft. Hein, désolé, mais c'est toujours un peu toujours sur les mêmes comptables, mais c'est quand même vrai. Voilà, donc c'est fait partie des trucs sur lesquels c'est pas très compliqué à faire, donc voilà, le lecteur DVD complètement remplacé, moi je dis pourquoi pas. Après tout, il faut bien. Voilà, on va faire une petite pause musicale. Alors je remercie Antix chaleureusement qui a proposé toutes les pauses musicales de cet épisode. Et en plus, Atem,
évidemment.
Donc bien joué.
Ouais, j'avoue que ça a été un petit peu le meilleur moyen pour trouver des bons trucs. Donc normalement, si Mortal a bien fait ce que je lui ai dit niveau ordre, le premier thème, c'est le thème de la team Fatal Fury dans King of Fighters 13.
Et oui.
Et donc, quel rapport avec le Schmink, me direz-vous? C'est que la team Fatal Fury, c'est pour ceux qui ne connaissent pas King of Fighters, c'est un jeu qui se joue en équipe de trois personnages. Il y a différentes équipes qui ont été pré-créées par les développeurs, et la team Fatal Fury, c'est la team des héros de Fatal Fury, dont fait partie Terry Bogard. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème.
Et voilà, donc le morceau s'appelle Wild Street, c'est donc le thème de la team Fatal Fury dans King of Fighters 13. Ça dure un tout petit peu longtemps, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et on va donc passer... Ah, j'ai oublié plein de trucs.
Mario.
Voilà, et vous l'aurez dans la tête pendant 3 jours.
Voilà, c'est à peu près ça. Donc on va faire une petite rétrospective sur Luigi's Mansion. Alors Luigi's Mansion, qu'est-ce que c'est? C'est un des titres de lancement de la GameCube, notamment... Alors, partout dans le monde, il me semble, mais c'était surtout un des titres de lancement au Japon. Alors, au Japon, il me semble qu'il n'y avait que 2 titres au lancement. Il y avait Luigi's Mansion et Super Monkey Ball.
Wave Race aussi.
Wave Race est arrivé un peu plus tard, je crois, au Japon.
C'est possible, ça.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on avait Luigi's Mansion, Super Monkey Ball, Wave Race, il y avait un Tony Hawk Pro Skater, il y avait Rock Squadron, c'était déjà un peu plus étoffé. Je crois qu'en Europe, on avait encore plus de trucs. Genre, ou alors, les États-Unis n'ont pas eu Rock Squadron à la sortie, mais nous, on l'a eu. Quelque chose comme ça. Bref.
C'est le bordel.
C'est le bordel. C'est pas grave. Donc l'idée dans Luigi Mansion, c'est que c'est un... une Asylum Tours, une ville aussi. L'idée dans Luigi Mansion, c'est que c'est pas un jeu de plateforme. C'est plus une espèce de jeu exploration-action.
C'est une parodie de Resident Evil.
Je voulais pas en arriver là, mais effectivement, ça ressemble à... Si Nintendo avait créé Resident Evil, c'est à ça que ça aurait ressemblé.
Exactement.
Donc tu débarques dans une maison, donc Luigi a gagné un manoir, qui correspond
normal.
Pas du tout... Normal. Sur la photo, ça correspond pas vraiment à ce qu'il y avait sur la carte postale, tu vois, par rapport à la réalité. Mais il décide d'y aller quand même. Et il est attaqué par un fantôme. Un fantôme méchant.
Pa-pa-pa.
C'est un peu ça. Il est attaqué par un fantôme et le professeur Catastrophe, Karl Tastrophe. Alors, Igad en version originale, je sais pas si c'est Edward Gad, mais du coup, Igad, je sais pas s'il y a un jeu de mots en fait. Parce que Catastrophe, nous, c'est un jeu de mots, enfin un peu à la con, mais.
Big up, la team trad. Ah oui, non, mais c'est parfait.
Oui, c'est parfait. Et donc, le professeur Catastrophe, qui est trop vieux pour manipuler son aspirateur, qui en fait ressemble au Proton Pack des Ghostbusters. le truc est une parodie avec tout un tas de références à la con partout, c'est quand même assez marrant. Donc il est attaqué par un fantôme, il essaie de l'aspirer, ça ne marche pas. Du coup, le professeur et Luigi se retrouvent dans son laboratoire, et le professeur lui dit bah, faudrait débarrasser le manoir de tous ces fantômes. Surtout qu'en plus d'avoir gagné le manoir, il est à toi Luigi, c'est-à-dire que tu pourrais y habiter si tu te débarrassais des fantômes, eh bien ils ont kidnappé ton frère Mario. Et donc Luigi va aller sauver son frangin, en mode gros trouillard quand même, parce que c'est assez extraordinaire, surtout sur le premier, je sais pas si vous vous rappelez, t'as le A pour appeler Mario.
Oui, Mario.
Mario.
Ouais, y a une touche dédiée, ce que je trouve assez génial, à juste cette unique fonction.
Bah écoute, David Cage l'a fait, Nintendo l'a fait avant, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Encore une fois, David Cage n'a rien inventé, hein. Mais oui, t'as la touche A to call Mario, quoi, il dit Mario. Mario. En fait, ça sert à autre chose. Il appelle Mario quand il n'y a pas un objet à côté pour interagir, mais quand il y a un objet pour interagir, il tape dessus, il le secoue, ou des trucs comme ça, en fait. C'est pas... Voilà, c'est une espèce de touche multifonction, mais... Mais voilà, presse A to Mario, effectivement. Et donc, tu as ton fidèle aspirateur, qui peut aspirer et cracher de l'air, qui peut aussi aspirer des fantômes, et ce putain de trouillard de Luigi qui est aussi, à chaque fois qu'il ouvre une porte, il est comme ça, genre... Il tremble la main et tout, genre... C'est assez énorme.
Pas serein, le bonhomme.
Oui, voilà, mais en plus, à chaque fois qu'il y a un truc dans la pièce qui fait peur, c'est-à-dire qu'il y a un fantôme qui apparaît derrière lui ou je sais pas quoi, le Luigi sursaute complètement, enfin, il se raidit, il sursaute, enfin, c'est ouf le nombre d'animations complètement hallucinantes qu'il a, même les animations faciales, en fait, sont... un peu délirante, y compris dans le premier où il a des... Voilà, il ouvre la tronche en grand, t'as sa glotte qui vibre à l'intérieur, enfin, tu sais, le truc est cartoonesque au possible.
C'est ça, et c'est... Je pense que c'est un des premiers points qui montre à quel point on a eu un saut par rapport à la Nintendo 64, c'est la capacité de faire des personnages expressifs. Alors, expressifs, là, c'est très surjoué.
Ah, R-limé, hein. Ou pas, ouais.
Bah en fait si, ils sont très très expressifs.
Mais ils sont très cartoon, ce qui n'était pas vraiment possible sur N64.
Bah voilà, des déformations pareilles, sans qu'on parte dans des considérations d'Uncanny Valley, ou de déformations chelou, parce que je rappelle quand même que les polygones se voient à l'œil nu sur 64. Bah c'est quand même assez fou pour l'époque. Et pour moi c'est une des choses qui montre le statut de démo technique en fait de Luigi's Mansion. Parce qu'à mes yeux, c'est ça, hein, Luigi's Mansion, c'est plus une démo technique qu'un gros jeu de lancement ambitieux, on va dire. C'est pas un Mario 64.
Non, clairement, c'est pour ça qu'il a été un peu critiqué à l'époque. C'est que Super Mario 64 a un peu révolutionné le jeu de plateforme 3D. Je pense que pas grand monde pour dire le contraire. Alors, il y a eu quelques prédécesseurs qui ont déjà fait des choses, mais c'est vraiment lui qui a apporté la recette qui marche, bêtement. Alors que c'est vrai que Luigi's Mansion, qui était le jeu de lancement de Nintendo pour GameCube, c'est quand même relativement compliqué. Parce qu'effectivement, t'as un jeu qui est extrêmement beau, c'est-à-dire même encore aujourd'hui, si tu le lances, alors je l'ai lancé hier soir, moi, pour refaire la un version... petit peu, reprendre les sensations, la version GameCube, pas la version 3DS, hein, la version okay. GameCube, à part le fait que le jeu est en 480i, ça a pas trop pris de ride, hein. Je veux dire, les ombres sont toujours très jolies, t'as des effets de lumière partout, tous les décors sont interactifs, ça c'est complètement fou à l'époque, plus fou que je pense, enfin, les animations faciales, je suis d'accord avec toi Antix, ça a contribué vraiment à l'effet démo technique d'avoir ces personnages hyper détaillés, ces éclairages et tout ça, mais les jeux de lumière sont complètement pétés, les fantômes sont tous translucides et ont une espèce de glow autour d'eux, de je sais même pas comment il fait l'effet, en fait ils brillent un tout petit peu en dehors de leur propre corps avec plein de couleurs différentes, ils se reflètent un petit peu partout, il y a des miroirs un peu partout, tous les objets sont interactifs. Tous, c'est-à-dire tout dans la pièce, tu peux venir taper contre tous les murs, tous les meubles, le moindre truc, tout est interactif, quoi, c'est la folie. Et c'est hyper bien foutu parce que c'est interactif de plusieurs manières. Tu peux taper dessus en appuyant sur A, donc au lieu d'appeler Mario. Mais tu peux aussi les aspirer ou souffler dessus. Tous les objets vont réagir. T'as de la physique avec des drapés sur tous les rideaux, les bords de lit, les couvertures, les papiers qui traînent. Enfin, c'est techniquement le jeu, il est encore hyper abouti. Hein. Et vraiment, tu le relances aujourd'hui, à part la résolution qui est très réduite, ça reste du 480p quoi. Franchement, le truc tient carrément la route. Et avec même des astuces impressionnantes, parce que ça, c'est pas juste beau, il y a aussi des astuces de gameplay. T'as une, très souvent des pièces où t'as un miroir qui te permet d'aller voir un truc que tu ne pourrais pas voir, puisque dans Luigi's Mansion, la caméra est fixe. Elle pointe toujours en fait vers le nord, en gros.
Comme si on regardait une vitrine.
Exactement, donc tu vois comme si c'était une sitcom, en fait, c'est finalement. C'est-à-dire t'as un mur invisible. Voilà, mais t'as quand même des trucs dessus de temps en temps. C'est-à-dire, des fois, tu vois un miroir, et puis en fait, dans le miroir, il y a un bouton, et le bouton, il est sur le mur qui est devant la caméra, et donc tu peux aller te le trouver et tout ça. Donc, c'est pas des miroirs pour se faire plaisir, c'est des miroirs qui servent quand même à faire 2-3 bricoles. Voilà. Un jeu qui est bourré de personnalité aussi. Alors, il y a Luigi qui est un trouillard notoire. Et, enfin, c'est quand même assez génial. T'as le Game Boy Aurore.
Putain, c'est vrai.
Qui est quand même un truc assez génial aussi. Et alors le Game Boy Horror, ça permet d'aller regarder tous les décors à la première personne. Et en fait, quand vous regardez les décors à la première personne, si vous prenez une photo, alors je crois qu'il faut appuyer sur A ou B, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est A. Et en fait, Luigi, si on pointe vers un fantôme, il va dire bah c'est comme ça qu'il faudrait le battre. En gros, il te donne un indice pour arriver à le capturer. Mais si tu le pointes sur un objet, en fait, Luigi va faire des remarques. Et dans les remarques, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même des trucs très chelous.
Je me rappelle pas.
Tu te rappelles pas de ça ?
Non.
Alors en fait, quand t'as un moment où t'as une chambre d'enfant avec des trucs, t'as une maison de poupée, dans laquelle d'ailleurs Luigi se retrouve un moment, projeté dans la maison de poupée, qui est en fait la maison en temps réel du truc, enfin le truc est un peu pété, et à un moment il y a une espèce de tête de poupée coupée, avec juste un œil, et quand tu pointes dessus, et que tu prends une photo... Luigi dit « Ah, ça, c'est le genre de truc que je mets dans ma salle de bain. » Non. Je veux dire, stop. Et voilà, le jeu est bourré de personnalité. Un gameplay qui est certes assez basique, mais relativement intéressant. Le principe, c'est que chaque pièce contient un puzzle, éventuellement un fantôme. Et l'objectif, c'est d'aller capturer ce fantôme. Alors, sachant que il y a les fantômes normaux qu'on aspire juste avec l'aspirateur, donc là, faut juste se battre avec pour essayer de les aspirer. Ça ressemble un peu à un jeu de pêche de ce point de vue-là.
Ouais, c'est ça. Une fois qu'ils sont ferrés, ils tirent. Il faut les tirer dans l'autre sens jusqu'à ce qu'ils s'épuisent.
Voilà. Mais ça reste un truc assez plaisant et qui marche plutôt bien, dans le sens où c'est certes assez répétitif parce que tu sais un peu toujours les mêmes actions. C'est relativement long, puisque en gros tu draines à peu près un point de vie par seconde, en gros, peut-être 2 points de vie par seconde. T'as des fantômes qui ont 100 points de vie, donc ça devient un petit peu long. Mais le principe est rigolo, parce que tu l'éclaires, ça éclaire son cœur, pouf, tu t'arrives à le choper avec ton aspirateur, et après tu tires, quoi. Exactement comme un jeu de pêche. Immense. Mais ce qui est rigolo, c'est les fantômes que tu dois capturer en faisant des trucs spéciaux, la meuf qui va jamais quitter son miroir et qui du coup s'intéresse pas à toi et qui du coup bah tu peux pas aller l'éclairer pour aller la capturer, donc tu vas aller tirer les rideaux pour qu'elle se lève de son miroir pour aller les remettre, et à ce moment là bah tu peux éventuellement la frapper avec un éclair de lumière et puis venir l'aspirer. Donc c'est plein de petites astuces comme ça. Ça fait un jeu très plaisant, mais malheureusement extrêmement court.
Ouais, c'est ça, en une dizaine d'heures il était plié, le truc.
Une dizaine d'heures, tu rigoles, quand tu le connais un petit peu tu le finis en 3 heures, hein.
Ok, d'accord.
Ah oui, non, c'est super rapide. Hein.
Ça faisait partie des défauts du jeu. Hein. C'est ce qui fait qu'il n'a pas été mal aimé, peut-être pas, mais qu'il n'était pas considéré comme exceptionnel à sa sortie, parce qu'effectivement, bah, c'est une démo technique, plus ou moins assumée.
Ouais.
T'as quand même un gameplay très répétitif, même si il est assez jouissif. Hein, c'est quand même très rigolo d'aller kidnapper les fantômes et tout ça. Mais enfin, ça reste quand même très répétitif, c'est extrêmement linéaire, c'est-à-dire tu peux pas vraiment explorer le manoir comme tu veux. C'est pas comme dans un Resident Evil où effectivement t'es obligé d'aller repasser à d'autres endroits et tout ça. Là, c'est vraiment, on te dit bah, t'as récupéré la clé de telle porte, démarre-toi. Bon, y a pas... Là-dessus c'est un petit peu compliqué. Alors après, il y a plein d'astuces, plein de trucs rigolos. Ça reste un classique de la GameCube. Je pense que là-dessus on peut pas trop lui retirer ça.
Bah, disons que c'est un jeu qui était un des premiers, donc qui est plutôt marqué. Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit un jeu extraordinaire. C'est un bon jeu, il fonctionne. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il est super court et finalement assez répétitif. Par contre, et je pense que ça, on peut pas lui retirer, il a créé tout un pan de l'univers Mario. Qui sera énormément repris par la suite, parce que Catastrophe, on l'a vu dans Mario Sunshine notamment, et il a, c'est un peu le fondateur de la personnalité de Luigi telle qu'on la connaît maintenant, en fait, parce qu'avant,
c'est vrai,
Luigi était...
joueur 2 et point.
Voilà, c'est le meilleur résumé possible, en fait, du personnage à mes yeux, avant Luigi's Mansion, mm-hmm. Et là, ils ont créé tout un univers et une personnalité à Luigi qui était, voilà, jusqu'à présent, un petit peu le joueur 2 dans l'ombre de Mario, tu vois, c'était un petit peu le Ken du Ryu, tu vois, et sa personnalité peureuse et un petit peu maladroite, en fait, sera énormément reprise dans tout ce qui va suivre, en fait. Mario Luigi étant probablement le meilleur exemple.
Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, cette espèce Je suis d'accord, Luigi's Mansion 1 et 2 ont créé vraiment, enfin Luigi's Mansion surtout, a créé vraiment une vraie personnalité pour Luigi qui jusqu'à présent était une espèce de faire-valoir pour son frangin, et c'est à peu près tout, parce que les seuls moments où il apparaissait c'était dans les Mario Tennis. Il apparaissait quand il manquait le deuxième joueur, quoi, c'est un peu ça. Il était là quand il fallait faire le contre, un peu comme Waluigi. Hein.
Ouais, mais d'ailleurs c'est littéralement ça, Waluigi. Hein. C'est le faire-valoir du faire. Non, c'est le méchant du faire-valoir. Hein.
Non, mais peut-être qu'un jour Nintendo fera un vrai truc avec Waluigi, puisqu'ils avaient fait des vrais trucs avec Wario, ils lui avaient donné une vraie personnalité. À un moment, à Wario, c'était pas juste méchant Mario, parce que c'est vraiment la traduction littérale, c'est ça. Hein, c'est Wario, c'est Waru, c'est-à-dire méchant. Donc c'est juste ça. Peut-être qu'un jour ils en font un vrai truc, mais c'est vrai que l'acte de naissance de Luigi. Et puis, je suis d'accord, tout l'univers qui est à côté, l'antagonisme qu'il a avec les fantômes, cette espèce de comportement, on dirait un peu Sammy de Scooby-Doo, tu vois, c'est un peu...
Oui, clairement.
C'est le gros trouillard face aux fantômes, mais il va quand même y aller, et à la fin, c'est lui qui les attrape, finalement. Voilà, c'est vraiment très rigolo de voir la personnalité de Luigi se développer, et ce sera encore plus marqué, dans Luigi's Mansion 2, parce que Luigi's Mansion 2 sur 3DS, hein, c'est un peu, on prend pas tout à fait la même recette et on recommence. Donc l'idée de Luigi's Mansion 2, c'est que
déjà ça change de développeur.
Oui, c'est Next Level Game. Ils sont des Canadiens.
Des gens très bien.
Ils ont aussi fait les Mario Foot avant et qui feront Luigi's Mansion 3 et Metroid Federation Force.
Comme quoi on n'est pas tous parfaits.
Hein. C'est exactement ça. Mais ouais, du coup, c'est un épisode qui est quand même sorti genre quoi, 13 ans après le premier ? Non, 12 ?
12 ans après le premier, j'aurais dit oui, facile, parce que c'est sorti en 2001. Hein,
Luigi's Mansion. Moi, ça m'étonne pas vraiment, vu que, comme je disais, le premier, c'est un jeu qui est apprécié, mais qui n'est pas non plus...
C'est pas un jeu cultissime.
Un jeu cultissime, quoi. Et je pense que c'est plus, en fait, tout l'univers autour de Luigi qui a été créé derrière, en fait, qui a fait que Luigi's Mansion 2 était envisageable, parce que entre la GameCube et la 3DS, on a notamment eu une itération de Smash Bros où là clairement Sakurai a joué à fond la carte de Luigi, c'est un petit peu le loser, alors c'était déjà le cas avant, mais là c'est encore plus vrai, vu qu'on va avoir un terrain Luigi's Mansion par exemple dans
Oui, tout à fait. Ça a créé du lore, hein, comme on disait tout à l'heure. Ça a vraiment créé des univers. Donc le manoir, le truc un peu spooky horror, voilà, le truc qui fait peur sans vraiment faire peur. Tout ça, ça a été créé par Luigi's Mansion. Et Mario Kart DS avait une carte, avait une course qui se passait dans le manoir de Luigi aussi.
Il y avait un terrain manoir de Luigi dans le mode de bataille de double dash.
Oui, aussi. Effectivement, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que ça a vraiment créé une espèce de... Voilà, dès que Nintendo a besoin d'un univers un peu horrifique, Halloween, avec des citrouilles et des machins comme ça, pouf, c'est Luigi's Mansion qui arrive en premier. Parce que c'est là où ils ont vraiment une espèce d'horreur gentiment enfantine qui fait pas vraiment peur. C'est là qu'ils l'ont. S'ils veulent de la vraie horreur, ils ont Project Zero, puisque c'est eux qui font aussi.
Mais et voilà, quand ils ont... Ça reste un super terrain pour faire de la parodie.
Exactement, pour faire des squelettes en plastique, et puis... des vampires avec des fausses dents, enfin voilà, c'est le spooky horror anglo-saxon, spooky, je sais pas s'il y a un terme français pour ça, mais c'est le l'horreur qui fait pas vraiment peur, quoi. C'est le truc qui fait semblant de, c'est le truc pour faire semblant de se faire peur.
Ouais, c'est ça. C'est pour moi, le premier est limite une parodie de Resident Evil, en fait.
Mais c'est une parodie de Resident Evil.
Oui, je suis complètement d'accord. Mais...
C'est ça, hein.
Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a marché, hein. C'est qu'on sortait quand même d'une génération avec des jeux d'horreur très marquants, et bam, Luigi's Mansion, qui parodie le plus connu d'entre eux. C'est un bon move de la part de Nintendo. On va pas se mentir. Du coup, on voulait parler du 2.
Oui, on voulait parler du 2. Donc dans le 2, ce qui se passe, c'est que le professeur Catastrophe emménage dans une vallée où il y a plein de fantômes, mais des fantômes qui sont gentils et calmes, parce qu'il y a la Dark Moon, la lune sombre, qui est une espèce de... qui fait que les fantômes, même quand ils sont actifs la nuit, sont des gentils fantômes.
Voilà. Normal.
Normal. Et le problème, c'est que le roi Bou débarque, casse la lune en 5 morceaux, qui se trouvent répartis dans 5 manoirs.
Normal.
Normal. Et donc, les fantômes deviennent méchants, puisqu'il n'y a plus la lune noire pour les calmer. Et donc, il décide d'appeler Luigi à la rescousse, puisque c'est vraiment la personne idéale quand un fantôme s'est échappé, c'est bien connu.
Mais c'est normal.
Who you gonna call? Luigi's Buster.
C'est un peu ça, who you gonna call? Bref, et donc, Luigi se retrouve embarqué de nouveau dans une aventure. Pareil, c'est exploration-action. Il y a quelques petites nouveautés de gameplay, il y a notamment la lampe nocturne qui permet d'aller révéler des choses cachées, alors soit des choses qui ont été cachées par les fantômes, soit des portes cachées, soit des éléments du décor qui sont cachés, et ainsi de suite. C'est là, on le retrouvera dans le 3, cette fameuse lampe nocturne, c'est un mécanisme qui marche assez bien. On a les fantômes qu'on peut aspirer toujours, mais de manière un peu plus dynamique, puisque là, en fait, on peut upgrader son aspirateur. Alors, c'est marrant, parce que dans le premier, ça ressemblait à un Dyson.
Phrase, quoi.
Ouais, non, mais upgrader son aspirateur, moi, je trouve que c'est normal. C'est Luigi, tu vois, il veut pas se battre avec des armes, quoi, pour arrêter de déconner. Donc là, l'idée, c'est on éclaire le fantôme toujours de la même manière, on commence à l'aspirer un petit peu, et en fait, quand on l'aspire, on remplit une espèce de jauge, et à un certain moment, on peut appuyer sur A pour donner une espèce de grand coup d'aspirateur et récupérer le fantôme. Donc ça va un peu plus vite pour les capturer, ça c'est la bonne nouvelle. Dans le premier, ça allait pas si vite que ça, ma chérie. Bah non, pas tant que ça. Bref, donc ça va un petit peu plus vite pour les capturer, d'autant plus qu'on peut upgrader cet aspirateur pour avoir de plus en plus de niveaux là-dessus. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup plus des fantômes. Le jeu est quand même plus répétitif et surtout, il a une structure en mission qui est un peu relou, en fait.
Mais ça se justifie pour moi complètement par le fait que c'est un épisode portable.
Alors, je suis d'accord, mais ça a des limites. C'est-à-dire que quand tous les quarts d'heure, tu dois revenir au labo, c'est un peu casse-couille.
C'est un peu chiant, oui.
Surtout que t'as pas vraiment de téléporte qui te permette de retourner à un endroit précis du manoir. T'es obligé de te retaper parfois les énigmes dans les pièces, notamment rallumer je sais pas quoi pour faire monter t'as l'ascenseur. T'es obligé de le refaire à chaque fois. Enfin, c'est un peu casse-couille, quoi.
Oui, c'est assez ouf. Hein. On en verra quand on parlera du 3. Mais... À quel point voilà. Ils avaient pu se rendre compte de ce genre de truc après coup.
Mais c'est vrai que c'est quand même assez... Alors c'est pas un mauvais jeu non plus, hein. C'est un bon Luigi's Mansion finalement, c'est un bon jeu d'exploration, il y a plein de trucs rigolos à faire partout. Je crois que c'est celui où Luigi a le plus l'air d'un ahuri complet. Je me rappelle d'une séquence où en fait il regarde à l'intérieur d'un carton et en fait t'as une caméra dans le carton, enfin tu vois une caméra dans le carton, mais tu sais une caméra grossissante. Enfin en sphère, là, je sais pas comment ça s'appelle, un grand angle ou j'en sais rien. Et donc Fisheye. Donc tu vois Luigi, tu vois son gros pif, tu le vois regarder ce truc-là dans tous les sens, enfin, c'est vraiment délirant. Et il y a plein de conneries comme ça dans Luigi's Mansion 2, en fait, le truc est totalement pété du slip. Et c'est vraiment le truc très rigolo où t'as plein d'interactions à la con, il y a un moment, il y a une chaise longue, tu peux demander à Luigi de s'allonger dessus, donc il s'allonge, sauf qu'il fait basculer le dossier, ça rebascule dessus, il se retrouve pris dedans, donc il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas d'horreur, il n'y a rien du tout. C'est juste, il est tellement con qu'il n'arrive pas à se servir d'une chaise longue, quoi, c'est tout. Je trouve ça juste excellent. En termes de personnalité, je trouve que c'est encore plus poussé que sur le premier où il avait la trouille tout le temps. Là, c'est pareil, il est tout le temps en train de marcher sur la pointe des pieds, en train d'y aller tout doucement, en train de claquer des dents, en train de... Voilà. Alors, il n'y a pas le push A tout Mario, c'est quand même un petit peu dommage.
Oui, c'est la plus grande perte, je trouve. Non, mais en fait, C'est trop con, mais je trouve que c'est... Tu sais, c'est un peu comme la roulade d'Ocarina of Time. Tu spams parce qu'en fait, t'as que ça à faire pendant que t'avances.
C'est exactement ça. Comme jeu est assez lent et que c'est un jeu d'exploration, effectivement.
Et en fait, le cri est tellement bien fait. Enfin, très bon boulot de Charles Martin.
Mario.
Puis il y a des petites intonations différentes. Alors, j'ai découvert qu'apparemment, selon le niveau de vie, Luigi était plus ou moins paniqué quand il le criait.
Putain, sérieusement.
C'est lent.
Ce serait énorme. Je sais pas combien de fois ils ont enregistré le cri Mario, mais ça a dû... une centaine de fois. Attends, on me parle dans l'oreillette, oui. Alors, apparemment, plus on appuyait sur le bouton A, plus il criait et il avait peur. Il changeait d'intonation. Ce qu'on disait. Voilà. Moi j'avais jamais remarqué qu'il allait jusque là hein, donc faut spammer le bouton A apparemment, il est de plus en plus paniqué. Très bien.
Mais tu sais, je pense qu'ils ont enregistré le truc une centaine de fois, puis ils se sont dit vas-y fais chier, on garde toutes les prises, on les met toutes.
Oui, on garde tout. C'est bon, on a de la place, c'est plus une cartouche. Donc nickel. Bref, donc pour revenir à Luigi's Mansion 2, donc oui, la structure était un peu relou. Maintenant le jeu lui-même passe bien en petit faut le prendre comme voilà, en petite session, ouais. Un quart d'heure, une demi-heure, ça passe très bien. À une exception près, quand même, le tout dernier manoir a une structure avec des missions par étage qui est beaucoup plus classique et qui ressemble beaucoup plus au premier Luigi's Mansion. En fait, c'est assez curieux. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, mais comme s'ils s'étaient rendu compte que ça allait peut-être faire chier au bout d'un moment.
Ça, je pense qu'ils cherchaient un peu, qu'ils voulaient renouveler la formule, mais doucement.
C'est pas impossible. Mais en tout cas, ça fait une dernière mission qui a une structure qui est vraiment rafraîchissante, on va dire, par rapport à d'habitude. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, Luigi's Mansion 2, ça marche plutôt bien. Il y a notamment un boss qui est particulièrement réussi, c'est le tout premier, qui est en fait une espèce d'énigme. Tu peux pas directement taper le boss, c'est une araignée qui est au mur. En fait, faut trouver un moyen de brûler sa toile, et pour ça, faut activer plein de trucs dans le décor pour arriver à amener le feu jusqu'à la toile, au morceau de toile pour arriver à le brûler. Enfin, c'est vraiment un excellent boss. Ce qui est dommage, c'est que le reste des boss est un petit peu relou. Enfin, ils sont pas extraordinairement inventifs, quoi. C'est-à-dire, quand t'as fait ça pour le premier boss, c'est compliqué de faire autre chose après. Sinon, c'est plus classique. Mais voilà, donc ça reste un bon jeu.
Ils y sont arrivés des années après. On y
c'est ça. Et on va faire une pause musicale. Et on parlera de Luigi's Mansion 3 juste après. Ah si, il y a le jeu d'arcade, alors voilà. puisque Mecton, tu ramènes ta phrase sur le sujet.
Oui, il existe.
Tu l'as rencontré ?
Je l'ai rencontré à un quart d'heure de chez moi. Oui, sacrée surprise, une espèce de... Vous savez, ces grandes boîtes, au final, où tu rentres dedans et tu découvres un rail shooter. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion des rail shooters dans les salles d'arcade où on te met... du vent dans la gueule, un siège qui vibre, un son très très fort, des trucs qui vibrent de partout.
Enfin, t'en as certains avec le cinéma 4D. 3D.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Luigi's Mansion Arcade, c'est ça. C'est un rail shooter où non pas manipuler un flingue, on manipule un aspirateur. Donc t'as ton aspirateur dans les mains qui vibre sa race dès qu'il se passe quelque chose. Tu as un bouton pour aspirer, un bouton pour la lampe. Je crois qu'il y a un bouton sur l'aspiro, mais il doit juste être là, tu sais, pour valider ton crédit. Et voilà, c'est très rigolo. Alors tout à l'heure en off, je vous disais, c'est Capcom qui fait ça. C'est Capcom et Sega.
Putain.
Ouais.
D'accord. Bon, un gage de qualité.
Oui, non, mais voilà, franchement, c'est rail shooter classique, mais avec cette ambiance à la con où il y a plein d'animations rigolotes de partout. Si vous avez deux balles à perdre, vous y passerez 10 minutes, mais sinon,
oui, voilà,
sinon ce sera plus cher.
C'est un jeu d'arcade, quoi. Bref,
ça existe,
nous l'avons rencontré. Bon, et bien avant de parler de Luigi's Mansion 3, on va marquer une petite pause musicale. Encore une fois, je remercie Monsieur Antix pour cette pause musicale. Je sais pas si tu veux nous détailler le...
Bah, j'ai pas grand chose à dire de plus, le thème de Luigi's Mansion remixé dans Smash Bros.
Voilà.
Il me semblait que c'était...
C'est qu'on avait
probablement passé le thème la dernière fois. Donc...
Alors en fait, j'aurais bien aimé vous passer le thème de... Le vrai thème de Luigi's Mansion, parce que finalement on aurait pu le faire. Le problème, c'est qu'en fait, quand on enlève la voix de Luigi qui chantonne, là, le fameux... En fait, il n'y a plus rien. T'as juste... C'est un violoncelle ou un truc comme ça. Puis t'as une basse à côté, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui crée la mélodie en faisant... Du coup, voilà, ce remix vient à propos, c'est quand même... petit peu plus agréable à écouter dans ces conditions-là. Voilà, donc c'est le thème principal de Luigi's Mansion, ça dure un tout petit peu plus de 4 minutes, c'est le remix de Smash Bros, précisément, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. C'est la poussière du grenier.
C'est ça.
Donc Luigi's Mansion 3. je sais pas par quoi commencer.
Mais il est trop bien ce jeu.
Mais il est trop bien ce jeu.
Alors, on peut commencer par le commencement, c'est-à-dire l'écran titre avec un hôtel doré, flambant neuf, tout doré, magnifique. Lumière,
Un gloom, une espèce de bloom partout. Le jeu est absolument magnifique.
C'est clair.
Il est juste. Ouf, et ça a été confirmé, d'ailleurs, il y a Digital Foundry qui a sorti une vidéo un petit peu tard pour dire, mais il est totalement teps du cul, le jeu. Il est défoncé. Il tourne en 1080p, alors 30 images par seconde, certes, mais il y a des ombres partout, il y a des reflets partout, il est vraiment, c'est une putain de démo technique, lui aussi, hein. Il est vraiment...
Et pareil, niveau animation, il se pose là.
Ah oui, clairement, putain, la quantité d'animation pour Luigi, c'est quand il est tout raide, là.
Et pas que, c'est pas que, même pour tous les éléments de décor, mais les oui, fantômes... Oui,
et même tous les éléments que tu peux casser, enfin, c'est la folie, quoi. Il est complètement pété, même les animations faciales de Luigi, il a plein d'expressions à la con. Alors, moi, je sais pas, il regardait un sac de golf, il était genre... On dirait Goofy, en fait, Luigi.
C'est ça.
C'est complètement fou. Voilà, je commence juste comme ça, c'est un peu bébête, hein, mais effectivement, t'as une cinématique d'intro qui est juste magnifique aussi, d'ailleurs.
Et drôle.
Dans lequel les taudes sont des putains d'esclaves.
Et drôle en 10 secondes. Ah, taude qui conduit un ça. Bus.
Oui. Taude qui est trop petit pour conduire le bus.
Vous avez déjà vu Indiana Jones et le Temple Maudit.
En fait, ça rappelle plutôt Ghostbusters 2 quand Bouffetou conduit un bus vers la fin.
Ah oui, non, oui, effectivement, oui. Ça pourrait. Mais c'est peut-être un clin d'œil à ça. Hein. Mais enfin voilà, les taudes sont des putains de victimes.
Peut-être parce que oui, des clins d'œil justement, des clins d'œil parodiques. J'en ai repéré quelques-uns. J'ai vu un truc à la Shining, je me suis dit, mais ils sont cons, c'est dingue.
Non, mais il y a des références absolument partout, c'est démentiel, je trouve. Je vais pas dire que chaque pièce, il y a une référence à un film ou quoi que ce soit, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais. À chaque étage, en tout cas, t'as souvent soit le design du fantôme, soit le design d'une pièce, soit quelques éléments de décor qui, clairement, sont inspirés. Quoi.
Les personnalités des fantômes. Enfin, peut-être ouais. Que je te bousille le déroulé, mais... Non, il y a vraiment beaucoup de... Il y a des choses à raconter.
Il y a pas mal de choses à raconter. On va quand même commencer par le commencement. Donc, Luigi se retrouve invité avec Mario, Peach... Et les toads. Alors les toads sont juste là pour servir de majordome à Peach, a priori.
C'est ça.
Parce que quand tu vois, quand ils descendent du bus, je trouvais ça génial comme truc. C'est-à-dire qu'ils descendent. Donc Mario descend du bus, c'est genre j'en ai rien à foutre. Peach descend du bus, j'en ai rien à foutre. Les toads se galèrent avec les bagages de Peach.
Et il y en a. Il y en a
un paquet. Et Luigi descend en dernier avec sa petite valise.
Et son chien.
Et son chien. Son chien fantôme qu'il a ramassé à la fin de Luigi's Mansion 2. Donc c'est son chien domestique fantôme.
Bref. Normal.
Et donc il débarque dans cet hôtel qui est brillant, qui est beau, qui est doré de partout, enfin qui est juste waouh, c'est complètement fou. Ils ont gagné un séjour gratuit rien que eux en premium.
Tu l'as vu le détail sur le personnel de l'hôtel?
Oui, ils ont des masques. Là,
oui. Les mecs sont pas louches du tout dès le début.
Les mecs sont pas louches.
D'ailleurs, il y en a un qui n'a pas de masque si vous regardez bien.
Il y en a un qui n'a pas. J'ai pas fait gaffe.
Je crois que c'est le mec à l'accueil. Il a pas de masque. Et là déjà, t'es quoi?
C'est pas gentil, ça. Bref.
Il y a encore un big up à la team trad, hein, la tôlière de l'hôtel. Ambre, Bruscade.
Oui. Très très bon, ça.
Mais il y en a plein. Les mecs, j'ai l'impression que les mecs à la trad, ils se sont un peu lâchés encore. Hein, ils en ont profité, ils ont 6 mois pour faire le truc. Et vas-y, on met le plus de jeux de mots possible dans le truc. Bref, donc, évidemment, ça tourne mal. C'est-à-dire que la première nuit dans cet hôtel, tout d'un coup, il révèle sa vraie personnalité. Et en fait, c'est un hôtel hanté et il y a le roi Bou qui est revenu, qui a kidnappé et Mario et les Toads et Peach, tout le monde, et il se sert justement de la comtesse embruscade du coup. Ok, Sims legit, de la comtesse embruscade pour orchestrer tout ça et coincer Luigi. Heureusement pour Luigi, il trouve au sous-sol un aspirateur qui a le design d'un Dyson, hein, du coup. Je sais pas s'il y a peut-être un partenariat avec Dyson, c'est peut-être pour ça les achats intégrés sur la boîte. 10% de réduction sur un Dyson si t'as acheté Luigi's Mansion 3.
Ah bah ça rembourse le jeu 20 fois ça.
Ah bah carrément. Bref, donc Luigi trouve un aspirateur un peu par hasard. Et du coup, bah, commence à combattre les fantômes, puis libère le professeur Catastrophe qui, en fait, avait lui aussi été invité à cet hôtel et s'était fait piéger dans un tableau. Donc voilà, on retrouve un petit peu la mythologie classique d'un Luigi's Mansion, des trucs piégés dans des tableaux, des fantômes méchants qui piègent des gens, qui font des farces à la con. Tu te rappelles les deux fantômes qui sont en train de sceller l'entrée avec une perceuse?
Oui.
Bon voilà, c'est juste génial, ils ont des animations... complètement folle, et tu sens que les mecs se sont un peu lâchés là-dessus, en mode bon bah les fantômes on va les faire les plus espiègles possible, et c'est vraiment ça quoi, ils arrêtent pas de se marrer, ils font que des conneries. Je sais pas si t'as vu, mais les fantômes se foutent de la gueule les uns des autres.
Oui.
C'est juste énormissime.
Oui, quand en Gaulin, les autres à côté, ils ont des réactions tous différentes.
Bah ils sont en train de se marrer en fait. J'en ai vu un, que c'est, j'avais capturé un des fantômes, puis il y a l'autre qui était là, plié en deux, en pointant du doigt, en train de se marrer quoi. Donc ils sont, c'est des sales gosses insupportables. C'est... Voilà, eux aussi, ils ont plein de personnalités. Et donc, bah, comme d'habitude, on explore ce nouveau manoir, qui n'est pas un manoir, mais qui est un hôtel. On interagit avec tout un tas d'objets dans les pièces. C'est vraiment un jeu d'exploration-action. L'objectif étant, dans chaque pièce, d'arriver alors soit à collecter le plus de pognon possible, soit à résoudre l'énigme de la pièce, soit à trouver le fantôme, soit à pouvoir basculer vers la pièce suivante. C'est toujours le principe. Et en général, Mectom en est témoin, on passe beaucoup beaucoup de temps à essayer de fouiller tous les objets, à essayer de tous les prendre, à essayer de... Bon, voilà.
Ouais.
À essayer de chatouiller le moindre truc, d'épousseter tout ce qu'on peut pour essayer de gratter un peu de pognon et tout ça.
Ah, mais quand je quitte la pièce, il n'y a plus un rideau et tout est clean.
Il n'y a plus un grain de poussière dedans, hein, de toute façon. Bref, donc c'est assez marrant. Alors en termes de nouveautés, enfin il y a des choses qui ont été reprises. Donc on a de nouveau la lampe nocturne qui permet d'aller révéler des choses, d'aller ouvrir des tableaux et des choses comme ça. La ventouse, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas en fait.
Pour moi c'est nouveau.
J'ai rejoint un peu aux deux, mais je suis pas sûr. Ça, ouais, pour ça moi, me dit rien. Nouveau. Donc oui, on a maintenant une ventouse. Alors comme Luigi est un plombier, ça paraît logique. Hein.
Joli.
Finalement, voilà. Ça reste quand même son métier d'origine, hein, en dehors de chasseur de fantômes. Plombier chasseur de fantômes. Je pense que sur ta carte de visite, ça doit faire drôlement bien ça. Donc il peut lancer une espèce de ventouse avec une corde au bout et en fait aspirer la corde et ça permet d'aller soulever des objets relativement lourds, casser des objets lourds, ouvrir des portes costauds. Je sais pas s'il y a d'autres utilités, s'il y a rien qui me vient là comme ça.
Après, c'est des trucs sur les boss. Mais...
Ah oui, après, oui, tu vas avoir de temps en temps des usages un peu ponctuels sur les boss. Bref. Donc on a une structure un petit peu plus ouverte, finalement, puisqu'on explore les étages, alors pas forcément un par un, il y a quand même quelques allers-retours à faire, on n'est pas trop sûr pour l'instant.
Voilà. Clairement, je pense, parce que comme on se disait tout à l'heure en off, mais arrivé à toi aussi de traverser des pièces où tu te dis, mais c'est marrant, cette pièce ne sert à rien.
Oui, ou alors il y a un truc que je ne peux pas activer.
Auquel j'ai pas accès, voilà.
Oui, trop loin, trop costaud. Moi j'ai eu des trucs où j'avais une lumière verte qui était cachée. Alors la lumière verte, en fait, il faut les éclairer avec la lampe, il faut faire un petit flash avec la lampe. Et ça permet d'activer des mécanismes. Et là j'ai eu des trucs où il y avait la lumière verte, mais elle était derrière une espèce de grillage et ça faisait que je pouvais pas la flashouiller. Donc je pouvais pas enlever le grillage, en tout cas j'ai pas trouvé. Donc je me dis qu'à un moment on va peut-être avoir quelque chose. Voilà. On n'a pas fini le jeu, hein, je tiens à préciser. Je pense que Mecton et moi-même sommes les plus avancés. Je sais pas, Antix, tu
oui.
T'avais beaucoup avancé sur Luigi ou Luigi Mansion 3
Non, pas du tout.
C'est vraiment au tout début.
Je dois être à la ceux qui ont fait un peu le début du jeu, c'est quand on rencontre le cuisinier dans...
au
restaurant.
Tout à fait, le restaurant, donc c'est pas très loin. Zergy, je sais pas si tu as joué à Luigi's Mansion 3 du coup.
Jamais, ni à aucun des trois, faut que je l'achète.
Ah, bon. Donc nous allons t'éduquer, Zergy.
Vous pouvez spoiler, hein, je m'en fous.
Très bien, bon, on va en profiter. Donc voilà, il y a, la ventouse et surtout la grosse nouveauté, c'est Guigi.
Ah, alors j'avais un truc à placer avant.
Ah, alors vas-y.
Sur la capture de fantôme.
Ah oui, elle a changé, elle a beaucoup changé, effectivement.
Oui, la nouveauté qui accélère tout, c'est qu'on peut les bolos. Et c'est drôle.
C'est très très drôle.
Et ah, ça peut même être utile des fois.
Oui.
Oui, parce qu'on peut casser des morceaux, en fait, ils sont considérés comme durs, et donc en fait on peut casser des meubles et des trucs comme ça de temps en temps.
Il y a tout un passage dans les boutiques 3ème étage, où une des gemmes bonus de l'étage est cachée derrière une vitrine.
Oui.
Et donc en fait, ben, en chopant un fantôme et en tapant en l'envoyant au sol à différents endroits, ben, si tu l'envoies dans une vitrine, elle pète.
Oui. Alors moi je l'ai pas résolu comme ça, tiens, c'est rigolo, j'ai fait ça un peu autrement. Mais effectivement,
quoi,
on peut le faire.
Comme moi, ventouse sur un objet et béné dans l'autre.
C'est ça, ouais. J'y étais à la bourrin.
Vandale, quoi.
bah écoute.
C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, hey, le truc en verre, si ça se trouve, je peux balancer un fantôme dessus. Je fais, oh, mais ça marche.
Oui, ça marche. En fait, les fantômes sont considérés comme un objet lourd. Donc, tu peux. Ça fait pareil. Donc, effectivement, tu aspires les fantômes exactement comme dans Luigi's Mansion 1, exactement comme dans Luigi's Mansion 2, en mettant le stick à l'opposé. Finalement, c'est presque un jeu de. On disait pratiquement un jeu de pêche, mais c'est presque ça. Donc tu pêches les fantômes. Ah, M. Zergy a été déconnecté. J'espère qu'il va revenir. Bref, tu pêches les fantômes véritablement, et en fait, à un moment, tu as rempli une jauge exactement comme dans le 2, d'ailleurs. Dans le 2, quand tu avais rempli la jauge, tu pouvais appuyer sur A, et pouf, ça l'aspirait d'un coup. Mm-hmm. En tout cas, ça lui enlevait beaucoup de vie d'un coup. Là, en fait, quand tu appuies sur A, bah, tu le balances de l'autre côté, violemment, et tu le cognes contre le sol, et ça lui fait perdre, je dirais, 25 points de vie, à peu près, ça, à chaque fois. Donc t'as pas forcément intérêt à le faire systématiquement, au sens où si un fantôme a 200 points de vie que tu le tapes, bah ok, tu vas lui enlever 100 points de vie, mais il faudra que tu le recaptures après, parce que t'auras plus de jus, entre guillemets. Donc parfois t'as intérêt à les aspirer un petit peu plus longtemps, alors sucer le bout un peu plus longtemps, avant de les balancer.
Ou là, vous faites comme moi, vous en chopez un, vous le balancez sur les autres.
Oui, ça marche super bien ça, putain. Ah, Zergy est de retour.
On a oh.
Bref, donc oui, balancer les fantômes les uns contre les autres quand il y a des grosses nuées de fantômes comme ça, qu'est-ce que c'est jouissif, c'est tu t'en éclaires un qui est un peu isolé, tu le chopes, tu le tires un peu vers les autres et blam.
Et pareil, ils ont une petite animation quand ils sont éclatés au sol, quoi.
Ouais, voilà, c'est assez énorme. Et donc pareil que sur Luigi's Mansion 1, c'est ce qui manquait un petit peu sur Luigi's Mansion 2 d'ailleurs. Sur Luigi's Mansion 1, tu as des boss qui finalement sont des fantômes avec une personnalité. Voilà, donc tu as le cuisinier, le jardinier, le roi, l'agent
de sécurité.
L'agent de sécurité.
Qui m'a fait pisser de rire.
Il est juste. Voilà, il est drôle, il est vraiment drôle. Et en plus, ils ont tous des petits noms quand tu vas dans la galerie. Donc, t'as Virgile le Vigile.
J'ai pas regardé.
Ouais. Bah, tu peux aller. C'est que des jeux de mots à la con. Voilà, donc chaque boss à chaque étage, en fait, il y a un fantôme un peu particulier qu'il faut kidnapper. Et en fait, ce fantôme a le bouton de l'ascenseur qui permet d'aller à un autre étage. Voilà, parce que en fait, on se déplace en ascenseur dans l'hôtel. Chaque étage a une petite personnalité.
C'est ça. Et du coup, ça casse la répétitivité de.
Exactement.
Qu'on pouvait avoir jusque-là.
Parce que, effectivement, l'hôtel est quand même un peu bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que tu as un étage médiéval. Une suite médiévale, une suite égyptienne. Alors, j'y suis pas encore, mais on a vu les images dans les trailers, ça a l'air d'être quand même assez, assez craqué.
Ouais.
T'as un étage forêt vierge, qui est quand même assez ouf. Puis t'as l'étage des boutiques dont on a parlé tout à l'heure, t'as la cuisine et le restaurant, t'as la salle de concert. Voilà. Alors ils ont des tailles très variables, ils ont chacun une personnalité, c'est à chaque fois des petites mécaniques différentes,
c'est ça,
même
c'est...
si ça reste le même fond.
Alors quand on parle de numéro d'étage, c'est un peu compliqué parce qu'on va pas forcément les parcourir dans l'ordre. Je crois que le deuxième étage auquel on a accès, en fait, c'est le cinquième.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Et passer cet étage, donc il te fait découvrir Luigi, je me suis dit, ouais, ok, si c'est ça tout le long, c'est mignon, mais je comprends pas pourquoi les gens en disent autant de bien. Arriver à l'étage d'après, bah non, c'est une autre mécanique.
Oui, c'est ça, chaque étage, t'as ses propres petites mécaniques, mais ça va réutiliser des choses que t'as appris avant. Tu te la ventouse, tu la chopes un petit peu plus tard, mais tu, il y a un étage où il y a vraiment beaucoup de trucs avec des ventouses et tout ça. L'étage où tu chopes Guiji, bah c'est pareil, t'as beaucoup de trucs avec Guiji. Faut qu'on explique ce que c'est que Guiji.
Je suis en train de repenser justement l'étage forêt vierge. Mais il y a un instant juste jouissif, sans le dire. Il y a énormément de décors qui sont en bois. Bon, bah il y a un objet particulier qui va vraiment, qui va vous permettre de vous défouler. Quoi.
Ah, j'ai peut-être pas encore atteint ce truc-là, tiens.
Tu verras, c'est, si je te dis pastèque...
Ah oui, ici, ok.
Bah c'est juste avant.
D'accord, d'accord, je le vois très bien. On essaie de pas trop spoiler quand même, parce que le jeu vient juste de sortir, puis en plus, même nous, on l'a pas fini, ça m'aurait un peu fait chier qu'on me gâche ça, mais... Enfin, même pas, en fait, parce que finalement, c'est tellement agréable de découvrir les petites mécaniques et les petites astuces. Ça ressemble beaucoup à un jeu Mario, finalement, où dans chaque niveau, on te montre un petit truc en plus, en disant, tiens, t'as vu, regarde, tu peux sauter comme ça aussi. Puis c'est réutilisé plein de fois, puis en fait, après, on considère que tu maîtrises la mécanique, et donc, ben, c'est intégré de manière... presque organique dans l'ensemble des petites énigmes, des petits puzzles que tu as dans chaque pièce. Alors tu dis, ah bah tiens, là je vais utiliser la ventouse, là je vais utiliser Guiji, là je vais utiliser la lampe nocturne, là je vais utiliser ça, là je vais utiliser ci. Et régulièrement tu vas avoir un petit truc en plus comme ça, ou apprendre un petit quelque chose quoi. Effectivement, on peut casser les vitrines avec les fantômes. Ou avec un objet lourd.
Ou alors, voilà. Tu as comme moi ce simple plaisir basique de suivre un scénario couillon, mais couillon
sympathique.
Couillon,
c'est le mot, oui.
Sans aucun dialogue. Ou très
oui,
peu, quoi, à part
très, très peu de dialogue.
C'est
vrai que...
C'est... Ben, rien que le tuto avec le chien...
Oui, c'est ça.
Sans aucun dialogue, juste avec les animations.
Mais tu sens... J'avais l'impression pendant un moment que les mecs avaient vraiment envie de faire du sans-dialogue, de faire pratiquement du film muet. Parce que finalement, Luigi dit pas grand-chose, quoi. Enfin, si, il dit des conneries. Parce que chaque fois qu'il...
Night-night.
Bye-bye. Night-night. Night-night. Alors, c'est comme ça qu'on dit bonne nuit aux enfants en anglais, hein, night-night. c'est exactement ça. Ou alors, quand il raccroche à 400, il fait « OK ». Voilà, c'est juste ça, il est juste con.
Oh, la gueule du téléphone. Je crois que tout Internet en a parlé.
Là, mais alors là, alors, je remercie Tardy qui nous a dit, alors effectivement, il y a le Game Boy Aurore, c'était Luigi's Mansion 1. Sur 3DS, il y avait le Dual Scream, ce qui était assez énorme, et qui faisait ce petit jingle. Moi, c'est toujours ma sonnerie de téléphone. Hein.
Oh, stylé.
Bah ouais, c'est stylé.
J'ai le Jackie Chow, rien à voir.
Ok. Pourquoi pas. Et là, c'est le Virtua Boo, le Virtual Boo qui est en fait un Virtual Boy.
Ça va cartonner.
Le rouge, tout le monde aime ça. C'est assez énorme, et donc quand le truc sonne ou vibre ou je ne sais plus, je me souviens même plus ce que ça fait là. En fait, Luigi décroche en sortant le Virtua Boo qui est vraiment un casque de Virtua Boy, il lance le collant sur les yeux, et là il y a le professeur Igad, enfin Catastrophe, qui est tout rouge, et tout le menu qui est à l'intérieur du Virtua Boo est rouge, avec des espèces d'effets 3D à la con sur le côté. Pourquoi ? Je veux dire, ça servait à rien, quoi, mais c'est tellement drôle de...
Parodie, autodérision, c'est génial.
C'est exactement ça, il y a vraiment... C'est tout à fait symbolique du reste du jeu. Il faut qu'on explique qui est Guiji, parce que oui. C'est quand même la grosse nouveauté du jeu.
Du coup, oui.
Pour le Virtua Boo, est-ce que vous avez précisé qu'à un moment, il pense que ça va se vendre comme des petits pains ?
Oui, c'est ça, mais c'est ça, il dit, ça va cartonner, ça va se vendre comme des petits pains. Ah, c'est tout... À un moment, il dit un truc genre, c'est tout en rouge, mais tout le monde aime le rouge. C'est génial. Bref, Guiji, donc c'est un... Alors, apparemment, le professeur Catastrophe cherchait un assistant pour l'aider pour les fantômes, et donc il a fini par en fabriquer un, à base de gluant, je cite...
Slime.
De slime, c'est ça. Et il l'a modélisé à partir du meilleur chasseur de fantômes qu'il ait jamais connu, donc Luigi.
Bah, par défaut, voilà, quoi.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Et donc Guiji, en fait, au bout d'un moment, il finit par te le coller dans ton aspirateur, et donc quand tu presses
le stick de droite... Celui qui marche, celui qui drifte pas.
Celui qui drifte pas. C'est pas gentil. tu presses le stick de droite, bah Guiji apparaît, et en fait, Luigi s'endort, et tu contrôles Guiji, qui a exactement les mêmes capacités que Luigi, aucune différence de ce point de vue-là, il peut aspirer, il peut souffler, il peut lancer des ventouses, il a la lampe nocturne...
La gâchette en même temps aussi.
Oui, tout à fait.
C'est nouveau, ça.
Oui, ça aussi, c'est nouveau. Ouais. Hein. Tu peux faire une espèce de petit saut. Alors, c'est un saut. C'est à la fois un saut et une espèce d'explosion de.
Ça, une petite tombe de choc, ça. Voilà. Ouais.
Mais à un moment, tu t'en sers comme un saut. Moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre. tu pouvais t'en servir pour sauter.
Putain, mais c'est ça que j'ai loupé. Ok, merci, j'ai la réponse à un truc que j'arrivais pas à débloquer.
D'accord. Bon, okay. Ouais. mais attends, comment t'as pu faire pour passer le truc du concert? Si tu savais pas ça.
Ah non, je pensais à, dans la salle médiévale, la cage.
Ah, oui, effectivement, oui. Oui. Oui, je confirme. Bref. Donc, Guiji, ça permet d'avoir en fait un deuxième Guiji. Mais il a une petite particularité, c'est que Guiji est très sensible à l'eau et dès qu'il touche de l'eau, il se dissout. Et donc, bah, du coup, tu peux pas toucher de surface liquide, en fait. Et le jeu en joue énormément, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où, en fait, les fantômes essayent même de t'asperger avec de l'eau.
Avec des sauts de flotte, ouais.
Avec des sauts de flotte pour que tu puisses pas utiliser Guiji. Et, par contre, Guiji a un avantage, c'est que comme il est en gluant, il passe à travers les cages, les grilles, les pics.
C'est un T-1000.
C'est un... Ouais, voilà, ça...
Bah si.
Bah oui.
L'animation, moi, il m'a fait penser direct.
Putain, c'est vrai, quand il franchit une grille, ça fait exactement ce bruit-là. Oh putain.
Je sais pas si c'est fait exprès, mais
je sais pas si c'est fait exprès. Merde, j'espère que c'est pas fait exprès. Si c'est fait exprès, c'est énorme. Mais effectivement, il fait... Et il passe à travers des grilles, et donc bah, ça ouvre plein de possibilités, puisque bah, quand il y a un grillage, tu peux passer au travers avec Guiji, quand il y a des pics au sol, tu peux passer au travers avec Guiji, quand il y a des projectiles pointus, bah, Guiji, lui, il s'en fout, ça lui fait rien du tout. Et inversement, bah, quand il y a de la flotte, il faut y aller avec Luigi, on peut alterner entre les deux, et en plus, alors c'est pas la première fois dans la série, parce qu'il y en avait dans Luigi's Mansion 2,
ouais.
Mais il y a un multijoueur coopératif. Donc dans Luigi's Mansion 2, il y avait en fait un multijoueur coopératif où t'avais un manoir qui était généré aléatoirement. Enfin, plus ou moins aléatoirement, t'avais quand même beaucoup de pièces qui se ressemblaient beaucoup. Mais... Et donc l'objectif c'était de ramasser le plus de pièces, le plus de cœurs ou des choses comme ça. Mais ça restait, tu pouvais pas faire le mode solo à deux. Là tu peux faire le mode solo à deux, c'est-à-dire qu'il y a le premier joueur qui contrôle Luigi et le second joueur qui contrôle Guiji. Et du coup... Bah déjà, quand tu contrôles le Luigi, c'est quand même un petit peu le bordel et tu fous le Bronx un peu partout. Mais là, quand t'es à deux avec deux aspirateurs, alors là, je te garantis que c'est le bordel intégral.
Tiens, est-ce que quand tu joues en coop comme ça, Luigi a aussi moins de vie? Parce qu'en solo, c'est le
Il cas. A aussi moins de vie, oui.
Mais tu peux le respawn à l'infini.
Ok. Du coup, pour le deuxième joueur, si... Alors moi, j'ai pas essayé avec mes enfants, j'ai essayé avec ma femme. Qui était très contente de rejouer à Luigi's Mansion, parce que c'est un des jeux qu'elle a torché sur GameCube, mais en mode, elle le connaît quasiment par cœur. Elle était très contente de jouer Guiji, parce que justement, quand elle se loupait, quand il y avait un fantôme qui était un peu trop fort, quand elle prenait un coup, je sais pas quoi, au pire des cas, elle attendait 10 secondes et elle revenait, quoi. Donc c'est vrai que, un petit peu comme dans Super Mario Odyssey, le joueur qui joue le chapeau, finalement, est... Voilà, il peut pas mourir, il fait qu'aider le joueur 1, finalement. Alors là, c'est un peu plus actif comme rôle, parce que t'as exactement les mêmes pouvoirs que Luigi.
Ouais, des énigmes de coop.
Voilà, il y a 2-3 trucs où t'as les énigmes de coop qui vont un petit peu plus vite, par exemple. Parce que t'es pas obligé d'alterner entre Luigi et Guiji. Tu peux y aller comme ça. Maintenant, ils sont pas allés jusqu'au bout. Il y a pas de truc où t'as vraiment besoin de contrôler les deux en même temps.
D'accord.
Ce qui est un peu logique, mais voilà. Mais je te dis, ce qui est rigolo, c'est à quel point, putain, qu'est-ce qu'on peut foutre comme Bronx quand on est deux, quoi. Déjà, tout seul, tu retournes la baraque, mais alors, c'est vraiment, t'en fous partout. Mais alors là, quand t'es à deux, je sais pas, ma femme, elle était là, genre, vas-y, je vais aspirer ça, tiens, je vais aller taper ce truc-là, machin. Moi, je faisais pareil de mon côté, mais putain, le bordel. Je plains la femme de ménage à la fin du jeu, quoi.
C'est le boss de fin, sûrement.
Je sais pas, alors moi, ce qui me ferait triper, en vrai, ce serait que Guiji, ce soit le méchant, en fait, depuis le début. Ce serait énorme. Mais en vrai, hein, ça me fait trop triper que Guiji essaie de prendre le pouvoir à un moment. Ah putain, ce serait tellement énorme. J'espère tellement que c'est ça la fin, en vrai.
Je sais pas, on verra.
Non mais t'as pas envie qu'il arrive un truc comme ça, en vrai?
Ouais, ça peut être sympa.
Ça peut être gigantesque, quoi. Là, le truc se foutrait de la gueule du monde, mais jusqu'au bout. Bref, donc c'est excellent, les mécanismes avec Guiji. Alors c'est pas révolutionnaire, c'est très rigolo. Ça permet de jouer à deux, ce qui est très agréable.
Est-ce que ça facilite les boss?
Bah oui et non, ça dépend des boss.
Ouais.
Le cuisinier, au final, on était deux, pas vraiment. Parce qu'au final, tu peux l'aspirer. Enfin, il a qu'un seul bout, quoi. Tu peux lui aspirer le bout qu'à un seul.
Ouais.
Le seul truc, c'est que pendant ce temps-là, l'autre peut aller chercher un élément pour lui envoyer à la gueule.
Ok. Oui, donc mais... ça l'accélère, quoi. Ça accélère le boss.
Ça accélère un petit peu le boss. Mm. Pour le... Comment dire? Pour Mozart. Mm. Je sais pas comment il s'appelle, le fantôme. Faut que j'aille regarder son nom, mais je pense que ça doit être une connerie de ce genre-là.
Je sais pas, il y a un peu de Dracula dedans aussi.
Mais... Un petit peu, ouais. Mais oui, pour le boss de la salle de concert, ça accélère un tout petit peu le truc, dans le sens où c'est plus simple. Il y a une phase où il faut récupérer des bombes pour lui balancer dessus. Mm-hmm. C'est un petit peu plus simple de les récupérer quand on est à deux et qu'on vise à deux. Okay. T'as la chance qu'il y en ait au moins une qui atterrisse dedans.
Ok, ok.
Voilà.
Oh, tiens, tant qu'à parler de visée, le contrôle au gyro, j'arrive à piloter que l'axe vertical. Il y a quelque chose pour avoir l'axe horizontal ou pas?
Je sais pas, moi je joue pas du tout au gyro là en l'occurrence.
Alors, du coup, je le fais pas, sauf dans les scènes vraiment calmes où tu sais, genre, tu enclenches ta visée ventouse, donc t'as ton petit pointeur laser, et si c'est juste au-dessus de toi, un petit coup de manette vers le haut.
Oui, voilà, puis tu peux ajuster, même si la ventouse elle a tendance à coller, elle a tendance
ouais,
à être aimantée.
Très tolérante, ouais.
Ouais, voilà, enfin franchement, si tu lances ta ventouse sur un truc et que ça se colle pas, c'est pas la peine d'insister en général, hein, c'est que c'est pas fait pour ça. C'est que c'est pas ça qu'on te demande. C'est quand même pas souvent. Et du coup, bah, le jeu est bourré de personnalité. Donc on a dit l'étage des boutiques. Voilà, chaque étage va avoir sa petite personnalité, ses petites mécaniques. Intégrer des petites nouveautés. Alors, soit un nouveau gadget, soit un nouveau mécanisme, soit une utilisation intelligente de Luigi et Guigi combinés. Je pense notamment à l'étage médiéval où tu commences à bien te prendre la tête avec les deux. Là,
ouais, faire des trucs en même temps. Ouais. Ça marche très bien tout seul. Hein.
Oui, ça marche bien parce que le Guigi ou Luigi garde l'action quand tu changes, en fait.
C'est-à-dire, si on est en train d'aspirer et qu'on change de personnage, celui qu'on a quitté continue d'aspirer.
Voilà. Et donc, du coup, on n'est pas... Voilà, tu peux effectuer des actions en même temps, enfin, entre guillemets, en même temps avec les deux personnages. C'est pas en même temps, mais voilà, ils peuvent avoir des interactions temps réel sans que ce soit trop galère. Et c'est très bien utilisé dans l'étage médiéval, puisque tu tires sur certaines cordes pour ouvrir certains trucs, et puis tu les maintiens ouverts pendant que tu vas aller faire le tour pour aller activer un autre interrupteur ou un autre truc. Mm. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper bien pensé, quoi.
Ce que je disais par ailleurs, l'impression que j'ai eue au moment où je me suis dit, ok, je suis en terrain connu, bon, ils ont revisité certains trucs et tout, c'est sympa. Je commence à avoir fait le tour de ce que j'avais déjà vu dans les précédents jeux. Bah, boum, c'est à ce moment-là qu'ils te balancent les nouveaux décors.
Oui.
Jusqu'à présent, je trouve le jeu extrêmement bien rythmé.
Bah, c'est-à-dire que c'est effectivement très bien maîtrisé. T'as jamais de séquence ni trop longue ni trop courte. Mm. Les étages s'arrêtent toujours finalement au moment où tu... Avant que l'idée s'épuise.
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que ce soit le décor lui-même ou les différents pièges ou les différents mécanismes qu'il y a dedans, ça s'arrête toujours au moment où tu te dis voilà, il aurait pas fallu qu'il y ait deux pièces de plus comme ça. Mm-hmm. Là, c'est bien, il y avait le boss à cet endroit-là, il est rigolo, il est original, il a un petit peu de personnalité, on se marre bien. Voilà, t'as fini l'étage, t'es content,
surprise
t'as gagné
suivante.
Un bouton, voilà, surprise suivante, tu vas à l'étage d'après, pouf, tu continues. T'es pas obligé de repasser par le labo à chaque fois, tu peux y aller si tu veux.
Oui, et du coup, tu vois, on parlait du 2 tout à l'heure, il y a cette fois-ci la possibilité de faire un aller-retour rapide au labo.
Oui. Et ça fait du bien.
Et quand on quitte le labo, eh ben, on revient exactement là où on était.
Et du coup, on n'est pas obligé de se taper tous les étages, on n'est pas obligé de remonter dans l'ascenseur, on n'est pas obligé de se taper le temps de chargement. Enfin, si on se tape le temps de chargement, parce qu'il y a une petite animation.
Ouais, il est caché.
Il est un peu planqué.
C'est
mais...
la petite lumière dans la rainure de la porte de l'ascenseur.
Ouais, c'est ça. C'est un magnifique temps de chargement. Mm. Bref, donc je pour l'instant, un excellent jeu. Sanctionné d'ailleurs par d'excellentes ventes, parce qu'on avait dit que, alors je crois que Link's Awakening était le meilleur démarrage d'un jeu Switch de l'année en Europe, et maintenant c'est Luigi's Mansion 3, c'est-à-dire qu'en 2 mois ils ont fait 2 cartons, quoi.
Ouais, on a eu une belle année encore.
Ouais, et attends, Pokémon sort dans 15 jours.
Putain,
c'est pas là. Le tunnel n'est pas fini, en fait. Hein, c'est... Je suis désolé, je sais pas qui c'est qui avait dit, c'est moi qui ai dit que le tunnel était enfin fini, mais en fait le tunnel est pas fini. Hein. Astral Chain, Demon X Machina,
J'y reviens en 2 mots, j'ai terminé Astral Chain et ça défonce. Voilà, jouez-y.
Bah écoute, voilà, ce sera le fil rouge de... Non, c'est plus le fil rouge, du coup, il n'y a plus de fil rouge.
On n'a plus de fil rouge.
On n'a plus de fil rouge.
Il n'y a plus rien.
Je vais vous en retrouver, hein, vous inquiétez pas. Bref, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur ce Luigi's Mansion 3, à part que, enfin, jouez-y, franchement, c'est vraiment très bien. Même moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai rejoué un petit peu au 1 et au 2 pour me remettre un peu le truc dans les doigts et voir un petit peu les sensations, voilà, manette en main, voir un petit peu ce qui changeait. Je suis très agréablement surpris par ce Luigi's Mansion 3.
Tu as une combine pour utiliser la lampe nocturne sans croiser tes mains?
Oui, le bouton L.
Ok, merci.
Oui, t'as la lampe et la
ventouse. Et la ventouse. Sur LR.
Et c'est vachement mieux depuis que j'ai trouvé ça. C'est dommage qu'ils le disent pas d'ailleurs directement.
Ouais, ok, non, parce que de base, pour expliquer aux gens, de base c'est avec le bouton Y. Mais alors une fois qu'on a le pouce sur le bouton Y, pour accéder au stick de droite, je croisais mes mains.
Bah oui, j'avais le même problème avec Demon X Machina qui avait le... c'est marrant, hein, mais je sais pas si tu te rappelles, pendant la bêta, moi ils avaient posé des questions à des gens.
Sur ce qu'on voulait,
questionnaire,
oui.
Et moi j'avais dit ce serait bien que le dash soit sur autre chose que Y, parce que le problème c'est qu'on peut pas dasher en contrôlant la caméra. Et ils l'ont mis sur R au final. Ou sur ZR, enfin, ou sur L, je sais plus, mais bref, ils ont mis
par défaut plaisant, et on pouvait le remapper si on voulait.
Exactement. Et ben là, c'est un peu pareil, en fait, t'as le... Donc ZL, c'est souffler, ZR, aspirer, R, c'est la ventouse, et L, c'est la lampe nocturne. Donc effectivement, si t'as besoin d'orienter ta caméra, ta torche vers le haut, vers le bas, tu peux utiliser le bouton L quand même.
Ok. Je note.
Moi, il y a même le gamin qui a trouvé ça tout seul. Qui a trouvé ça vachement pratique. Tu es plus pratique que de viser d'abord et puis de tirer après, en gros.
Okay.
Même si tu peux carrément le faire, puisque c'est pas vraiment...
Je suis passé à côté.
Je crois que c'est dit nulle part. Hein. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est dit absolument nulle part.
Tu devrais être plus curieux.
T'essayes jamais tous les boutons pour savoir comment on joue, toi? Non, tu lis le mode d'emploi, c'est bien.
Ouais, à l'époque, il y en avait, c'était bien.
Oui, c'était bien. Bref, bon, bah voilà, Luigi's Mansion 3, excellente surprise.
Ouais.
On s'attendait à ce que ce soit un jeu correct, parce que...
Ah, et du tout, on n'a pas... Enfin, moi, non, toi, je sais pas, le multijoueur...
Non, alors, j'ai pas essayé.
Hors histoire, j'ai pas essayé non plus, et le online, j'ai pas essayé non plus.
Voilà. Moi, j'ai juste essayé le coop de l'histoire, et je pense que je vais finir l'histoire, et que je verrai si je fais du coop. Alors, le truc, c'est que... J'ai des collègues qui sont en général très friands de jeux à la con qui se jouent à beaucoup. Et donc je pense qu'il y a un des modes multijoueurs, le truc avec les deux équipes qui doivent ramasser le plus de pognon possible.
C'est
là.
Ça, c'est ce que j'allais dire. Imagine s'il y a un mode...
Je pense que ça doit bien marcher.
Un mode par équipe comme ça, parodique Left 4 Dead.
Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils pourraient le faire. Franchement, ils pourraient le faire. Mais voilà. Bref, Luigi's Mansion 3, jouez-y. Pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'était vraiment...
C'est top.
Profitez-en. C'est pas souvent qu'il y a des jeux de qualité comme ça qui sortent, attendez si. Merde.
Il y en a trop sur Switch, on est plus habitué.
Mais moi je suis désolé, hein. Au bout d'un moment j'ai plus de pognon. Hein. Maintenant il faut arrêter. Heureusement que je suis pas fan de Pokémon, parce qu'alors là ce serait fini. Bref, on va se quitter sur ces bonnes paroles. On a encore fait une émission d'1h40, tout va bien.
Ça arrive.
Il va falloir sérieusement s'attaquer à Pokémon, je pense, dans 2 semaines. Parce qu'il sort la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine?
Oui.
Okay.
Ça va être compliqué de zapper le Pokémon. Hein.
Ouais.
Donc il faut qu'on voit avec messieurs Drosgar et Galaxies, puisque ça va être nos Pokéfans à nous, c'est eux. Voir si on fait une émission spéciale Pokémon, ou alors si on dit on s'en bat les couilles de Pokémon, ce qui est quand même une possibilité aussi.
C'est plus tard, on verra.
On verra un autre jour. Bref, voilà, on se retrouve en tout cas dans 2 semaines, dans 1 semaine en podcast, si vous nous écoutez en podcast. Bisous, ciao tout le monde. J'ai pas changé le jingle, non. J'aurais dû mettre ça comme jingle de fond.
Ouais, mais c'est triste.
Allez, bisous.
Ciao.
Salut.